Alors, je dois présenter, bien sûr, Xavier Mirabel, et je le remercie d'être venu pour inaugurer ces conférences-là. Malheureusement, eh bien, si c'est un flop ce soir-là, eh bien, on pourra mettre sur son front, eh bien, l'étiquette, eh bien, du fait qu'il nous a coulé les conférences. Ça va. Mais je suis plein de confiance puisque je lui ai confié la première, parce que je sais que, eh bien, ça mettra un bon élan à nos conférences. Donc, Xavier Mirabel est cancérologue au CHR. Il est consulté aux affaires bioéthiques, en affaires bioéthiques à l'Assemblée nationale et au Parlement. Vous avez vu avec le ton de ma voix que je ne sais pas et je ne comprends pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, ça doit être fort intéressant. Voilà, j'ai rencontré Xavier Mirabel sans qu'il me rencontre. J'étais diacre, j'étais en train de terminer mon cycle de formation, j'étais ordonné dans un mois et je reçois un mail, les mails qu'on n'aime pas, en vous disant, bien en fait, je vous annonce que vous avez maintenant une nouvelle session à valider, celle de Xavier Mirabel sur l'euthanasie, sur la fin de vie. Alors moi, j'ai répondu dans ma tête que je savais déjà tout ça, je savais que c'était pas bien et qu'il fallait pas l'encourager, et puis c'est tout et que ça m'intéressait pas. Alors peut-être que vous êtes posé cette question-là aussi. En voyant le thème de la conférence, peut-être que vous dites que la bioéthique, eh bien, vous savez déjà tout, vous savez que c'est pas bien. Mais par contre, une semaine après que je reçois ce mail, eh bien, il y a une maman qui vient de me voir en me disant que la souffrance de sa fille, qui est en soins palliatifs à cause d'un cancer qui s'est généralisé, qui a 24 ans, elle ne saura pas la gérer et que s'il faut une sédation profonde et prolongée, eh bien, elle dira oui. Et donc, je lui ai dit que j'étais dubitatif et donc elle m'a envoyé vers la responsable des soins palliatifs du grand CHR que je ne nommerai pas. Et donc du coup, j'étais bien content quand même d'avoir eu ces quelques mots de conférence. Alors bien maintenant, je vous laisse écouter Xavier Mirabel et comme le but est la formation, je vous invite tous à prendre votre téléphone, peut-être votre crayon et à prendre des notes puisqu'il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas et que peut-être nous oublierons. Alors je vous invite à prendre des notes, à noter et si vous avez peur d'avoir la tentation de répondre à vos textos, mettez vos téléphones sur mode avion. Je vous remercie. Nous allons commencer, pardon, comme je suis prêtre, eh bien, nous allons commencer par une prière, même si en soi ça n'a pas de rapport. On est dans le mode, dans l'ordre naturel et pas dans l'ordre surnaturel. Mais j'en profite toujours, eh bien, pour réciter un petit Je vous salue Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint va, priez pour nous.
Bon, bah merci pour cette bonne introduction, qui n'était pas si longue que ça, finalement. Vous m'avez demandé de vous parler de la mort. De la mort avec comme thème la médecine a-t-elle réponse à tout? Je vais faire un plan simple, on va parler d'abord de la mort et ensuite de mourir, hein, qui sera la deuxième partie. Et on devrait faire le tour d'un ensemble de questions intéressantes, j'espère. Pour compléter ma présentation, donc je suis médecin, je travaille à Oscar-Lambret depuis 30 ans. J'ai été 11 ans président d'Alliance Vita, qui est un mouvement que peut-être tel ou tel connaissent. Si vous voulez m'écouter, si vous n'en avez pas assez ce soir, j'ai une tribune bioéthique qui est diffusée sur RCF tous les mardis et que vous pouvez podcaster sans difficulté. J'ai un compte Twitter aussi, mais je ne réponds pas parce que je suis suivi par plein de trolls qui m'insultent. Mais par contre, je diffuse des informations qui me semblent intéressantes si vous voulez suivre l'actualité autour des enjeux d'éthique et de médecine. Donc on a dit un plan simple et d'abord parler de la mort. Et pour parler de la mort, on va commencer par la vie, parce que sinon on ne peut pas s'en sortir dans le raisonnement. Quand débute la vie humaine? C'est une question qui peut sembler évidente, qui n'est pas forcément tant que ça, parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas unanimité dans la société d'aujourd'hui. En tout cas, pour beaucoup de scientifiques et de médecins, la vie humaine commence au moment de la fusion des gamètes, c'est-à-dire au moment de la fusion du spermatozoïde et de l'ovule. Et à ce moment-là, apparaît une nouvelle entité biologique qui a comme caractéristique d'avoir un nouveau patrimoine génétique et puis d'avoir une capacité de multiplication cellulaire absolument fantastique. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez un ovocyte et un spermatozoïde, ils se divisaient pas l'un comme l'autre, ils restaient comme ça. Et les ovocytes, ils étaient comme ça depuis le début de la vie embryonnaire de la mère. Jamais de division cellulaire. Et puis tout d'un coup, à la suite de cette fusion, il y a un phénomène de vie qui apparaît, d'une puissance absolument extraordinaire, quand même. Alors certains vont dire, ouais, est-ce que c'est vraiment humain? Bon, ce n'est qu'un tas de cellules. Je dis, oui, moi aussi, je suis un tas de cellules, excusez-moi, mais respectez-moi quand même. L'embryon, le début de la vie embryonnaire, c'est au moment de la fécondation, c'est là qu'apparaît la vie. Là, les médecins, les biologistes, pour beaucoup d'entre eux, vont l'admettre en disant, bah là, j'ai une frontière, finalement, assez lisible. Pour les biologistes, c'est parfois plus compliqué, mais ils nous disent que pour reconnaître la vie, il faut qu'il y ait croissance, une entité qui grandit et qui mûrit jusqu'au moment où elle devient capable de se reproduire. Donc la notion de reproduction est une notion importante. Métabolisme, une mobilité éventuellement, qui est un critère de vie, externe ou interne, circulation ou autre. Et puis la réponse à des stimulus, à des stimuli extérieurs qui vont amener la vie à se modifier. En tout cas, donc l'embryon est bien vivant, et c'est troublant parce qu'il est bien vivant alors qu'il n'a pas encore d'encéphale. Ah, c'est quand même gênant, ça. Il est bien vivant, il y a la vie. Et pourtant, le cerveau ne s'est pas développé encore, il se développera plus tard, dans quelques semaines. Mais personne ne doute qu'il y a une puissance de vie incroyable qui est là. Donc sans doute que la vie ne se résume pas à la présence d'un cerveau, ou pas que. Et cet embryon, si vous voulez lui mesurer un électroencéphalogramme, il n'y a rien, donc l'électroencéphalogramme n'est pas forcément, ou pas tellement à l'évidence que ça, un critère définitif de vie ou de mort. Donc on voit déjà que ça peut vite devenir un peu compliqué. En tout cas, pour revenir à l'embryon, et parce que je suis invité par des prêtres, je donnerai quelques repères liés à l'enseignement de l'Église catholique par-ci, par-là, et donc je vous rappelle que, j'ouvre les guillemets, l'embryon doit être respecté comme une personne dès la conception. L'Église catholique ne nous dit pas l'embryon est une personne. Elle ne dit pas ça. Elle dit l'embryon doit être respecté comme. Le sous-entendu, c'est difficile. Quoi. On voit, il y a un truc qui apparaît, il y a une cellule toute petite, et puis il y a une croissance. On voit bien qu'il y a un phénomène de vie extraordinaire, mais on ne peut pas affirmer sur le plan scientifique, et donc il peut peut-être y avoir un doute. Il n'empêche que même si certains ont un doute, on doit respecter comme une personne, parce que justement, il y a doute et qu'il y a manifestement présence d'une vie. Est-ce qu'elle est pleinement humaine? Certains pourraient en débattre. Alors après, la question de la mort. Alors, jusqu'au XVIIIe siècle, c'était compliqué, quoi. Mais bon, la mort, c'était l'arrêt de la circulation, de la fonction respiratoire. On voit bien que, dès le début, la définition de la mort est plus... Enfin, est pas si évidente que ça à affirmer. D'ailleurs, les histoires que vous retrouvez, si vous lisez la littérature sur les questions des personnes qui sont enterrées, pas vraiment mortes, etc. Enfin, il y a tout un imaginaire autour de ces questions-là qui montre bien que la définition de la mort n'est pas forcément évidente. Mais bon, l'arrêt de la fonction respiratoire a longtemps été considéré comme un élément déterminant. On mettait un petit miroir devant le corps, on parle d'expirer. Expirer, c'est bien donner son dernier souffle, quoi. Lien avec la fonction respiratoire. Puis après, on découvre la circulation sanguine, et alors on se dit, tiens, ça serait peut-être bien la fonction du cœur qui déterminerait la vie, et l'arrêt du cœur serait le critère de la mort. C'était d'autant plus vrai qu'on a longtemps pensé que le cœur était le siège des émotions et d'une partie, sans doute, de la pensée. Nous, ça nous semble évident, enfin, je sais pas à vous, moi, ça me semble évident que la pensée nous vient du cerveau, mais c'est aussi parce qu'on me l'a appris, mais à une époque, on pensait que le cœur avait un rôle important dans les émotions et dans la pensée. Ça se complique quand on commence, c'est assez récent ça, à greffer des cœurs. Parce que si le critère de la mort, c'est le cœur, et que je peux changer le cœur de quelqu'un, ça ne marche plus du tout. Et s'il y a de la pensée dans le cœur, ça ne marche plus du tout non plus. Mais en tout cas, le critère de vie, qui peut être l'activité cardiaque, le jour où je me mets à remplacer le cœur de quelqu'un par celui d'un autre, on voit bien que je suis paumé sur la définition de la vie et de la mort. Donc la définition de la mort, elle évolue. Et elle évolue en 1948... une circulaire qui nous dit que c'est l'abolition... Donc la définition de la mort, elle va être médico-légale, au fond. Je n'ai pas de critères biologiques si évident. C'est difficile pour le médecin d'affirmer quelqu'un est mort ou pas. Ça ne crève pas les yeux, quoi. On peut avoir des moments de doute. Et donc il va falloir des règles pour affirmer le décès. Donc les règles, elles sont médico-légales. Donc circulaire, en 1948, la mort, c'est l'abolition de la conscience et de la réactivité, absence de respiration et de circulation sanguine, pas de mouvement respiratoire, pas de pouls, pas de bruit du cœur. Et puis, ça se confirme par le refroidissement du corps et la rigidité. Et puis la définition, elle change en 68. Pourquoi en 68? Eh bien, parce qu'à l'époque, on a découvert la réanimation et qu'on se pose la question des greffes d'organes. Et donc là, il faut modifier la définition de la mort. Les connaissances aussi évoluent sur la fonction cérébrale. Et on va définir la mort cérébrale, c'est l'absence de conscience et de motricité, l'abolition des réflexes. Et si besoin, on doit la confirmer, etc. Enfin, je vous passe les... La première loi sur le don d'organes, c'est 76, et c'est le sénateur Caillavé, hein, franc-maçon bien connu, par ailleurs militant de l'euthanasie, etc., qui est à l'origine de ce texte. Et donc, on voit que la définition de la mort passe, vous voyez, de la respiration au cœur, au cerveau. Bon. Le texte le plus récent date de 2005, et nous dit que la mort, c'est si il y a une absence totale de conscience et d'activité motrice spontanée, l'abolition de tous les réflexes du fond cérébral et l'absence totale de ventilation spontanée. C'est un gros souci, il n'y a pas d'instant scientifiquement incontestable. La mort, c'est une conjonction d'indices et c'est un processus qui est un processus qui se fait par étapes. Et donc, il y a là... Pour remonter mon micro... Il faut vous approcher derrière, il y a plein de places devant. Ça serait vachement efficace. Si vous voulez entendre, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 places. Donc, on se pose la question de modifier les critères de la mort, et la question se pose de plus en plus, puisqu'il y a encore une campagne de l'Agence de biomédecine toute récente où on nous explique que l'objectif de don d'organes et de transplantation n'est pas atteint. On ne connaît pas bien l'objectif, je ne sais pas lequel il est, mais en tout cas, il n'est pas atteint, et il faudrait plus d'organes pour transplanter. Je ne suis pas opposé à ça, hein. Je pense que c'est très bien la transplantation d'organes, que quelqu'un qui récupère un rein sur un cadavre, etc., qui va pouvoir vivre, guérir de son insuffisance rénale, c'est formidable, hein. La question n'est pas là. Et donc, maintenant, la nouvelle question, c'est celle de la mort à cœur arrêté. Donc, on est passé par une période où c'est plus le cerveau, et on revient au cœur en disant, au fond, on est mort si l'arrêt cardiaque est persistant, et si, malgré une réanimation bien conduite, le cœur ne repart pas. J'y viens dans quelques minutes sur un exemple troublant à ce sujet. Et puis, on avance encore. Alors, les premiers prélèvements d'organes en France l'ont été à cœur arrêté, quand même. Et... au tout début, on raconte que la prison de la santé, lorsque les personnes étaient exécutées, lorsque la peine de mort existait encore, dès l'exécution faite, les médecins se précipitaient pour prélever les organes, passer un fluide réfrigérant et puis transporter les reins à l'hôpital voisin pour réaliser les transplantations. Ce que font les Chinois aujourd'hui, c'est leur condamner à mort, n'a donc rien de nouveau et existe depuis toujours dans la pratique qu'on peut envisager autour de la peine de mort. C'est-à-dire que c'est vrai que quand il y a quelqu'un dont il est programmé qui va mourir, on se dit c'est trop bête que les organes ne servent à rien. Quoi, hein, c'est un peu ballot. Hein. On les a, il est là, il est tout frais, tout chaud, et hop, on pourrait les piquer. Donc, en tout cas, en 95, sont publiés des critères de Maastricht, et c'est le critère numéro 3 qui nous intéresse. Vous trouverez souvent ça, si vous lisez l'actualité de bioéthique, vous verrez souvent référence à ces critères de Maastricht. Et donc, le critère numéro 3 est l'évolution vers laquelle on va. Et ils nous disent qu'on pourrait envisager des prélèvements d'organes pour des personnes pour lesquelles une décision d'arrêt de soins thérapeutiques ou de limitation thérapeutique est prise en raison du pronostic des pathologies et nécessitera une prise en charge de réanimation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on pourrait même prélever les organes chez quelqu'un dont on déciderait collégialement, médicalement, qu'on va diminuer les soins et qu'on se met en phase d'arrêter toute intensité thérapeutique, mais voilà, mais on le prend en charge en réanimation quand même, vous voyez, enfin, on laisse pas les organes partir. Quoi. Donc on voit bien là une évolution de notre droit qui, après des règles successives, a la tentation d'aller vers, d'une part, le cœur arrêté, on va y revenir, et ensuite, cette question de prévoir, anticiper la greffe et la transplantation d'organes chez les patients pour lesquels on a décidé la limitation thérapeutique. Donc on est clairement vers des nouvelles définitions de la mort, et certains aujourd'hui écrivent dans les revues de bioéthique qu'il faudrait aller vers une mort néocorticale, c'est-à-dire une mort uniquement du cerveau très superficiel, qui est celui qui est responsable entre autres de la conscience, mais que des personnes qu'aujourd'hui on considère comme non mortes parce que la partie la plus profonde de leur cerveau est encore active, demain serait peut-être considérée comme morte. En gros, ils considèrent qu'on pourrait prélever les organes de Vincent Lambert, par exemple, qu'il est mort en fait, et qu'on pourrait d'emblée aller vers la transplantation. Donc il y a des débats importants dans la communauté médicale, dans la communauté bioéthique, pour faire bouger ces critères de la mort, les étendre au maximum pour pouvoir récupérer des organes pour la transplantation. Alors, que nous dit l'Église catholique à propos de la mort? Parce qu'il y a un message destiné aux soignants, hein, je précise. C'est la charte des personnels de la santé. Et ce que nous dit l'Église catholique, c'est « La mort survient quand le principe spirituel qui préside à l'unité de l'individu ne peut plus exercer ses fonctions sur l'organisme et dans l'organisme dont les éléments abandonnés à eux-mêmes se dissocient. » Le principe spirituel, médecin, infirmière, on est mal quand même pour l'observer. Oui. Est-ce que c'est l'électroencéphalogramme? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est le cœur qui bouge? Est-ce que c'est mon petit embryon avec sa capacité de multiplication cellulaire incroyable? Donc, en fait, c'est ça le problème. C'est que pour les chrétiens, il y a une âme, quoi. Il y a un truc en plus que moi, médecin, je ne mesure pas. Je sais bien qu'il y a quelque chose, mais je ne suis pas capable de le... Voilà, où est-ce que c'est? Est-ce que c'est palpable? Et donc, on a là quelques malentendus. À la charte des personnels de santé, toujours au paragraphe 87, transplantation d'organes, il faut avoir la certitude d'être en présence d'un cadavre. C'est heureux, enfin, c'est précisé. Pour éviter que la mort ne soit provoquée ou simplement hâtée, peut-être que ça pourrait être une idée de la hâter un petit peu, par le prélèvement d'organes. Le prélèvement d'organes sur un cadavre est légitime à la suite du diagnostic de mort certaine du donneur. C'est compliqué, la mort certaine, puisqu'on voit que sur les critères, vous voyez, ils sont mouvants, ils se baladent, selon les époques, les législations, selon les pays, ça ne sera pas les mêmes critères, en fait. En tout cas, la charte des personnels de santé, donc destinée aux soignants, nous écrit au paragraphe 129 « La mort cérébrale est le vrai critère de la mort. La foi et la morale font leur ces conclusions de la science. Elles exigent cependant, de la part des professionnels de santé, un emploi plus précis des différentes méthodes cliniques et instrumentales en vue d'un diagnostic sûr de la mort, afin de ne pas déclarer qu'une personne est morte et de traiter comme telle celle qui ne l'est pas. » Je reformule. L'Église catholique nous dit, bon, on vous écoute les médecins, les réanimateurs, les biologistes, c'est vous qui savez, c'est vous qui observez. On voit bien que vous êtes en difficulté. Vous nous dites aujourd'hui, votre critère, c'est plutôt la mort cérébrale. Eh bien, nous, on vous suit. On vous suit, mais on attire votre attention. Faites gaffe, ne vous trompez pas. Utilisez des techniques plus précises. Continuez à travailler et à chercher pour mieux comprendre et mieux préciser ces critères de mort. Donc c'est ça le message de l'Église catholique envoyé aux soignants qui eux disent, nous, ben voilà, votre âme, on ne sait pas trop où elle est, on ne la voit pas, mais on a des vraies difficultés pour bien définir les choses. Alors vous allez me dire, des fois c'est facile, un gars qui se fait exploser avec une ceinture d'explosif, là, il n'est pas mort avant, il est mort après, quoi. Mais il y a d'autres situations où c'est moins, vous voyez, c'est moins net, quoi. Alors j'en viens à une anecdote qu'on raconte beaucoup. Elle est intéressante cette anecdote parce qu'elle a été reprise en fait par l'agence de biomédecine, etc. C'est un article du Monde que vous trouvez, il est en libre accès du 10 juin 2008, mais la question est toujours d'actualité. Un homme de 45 ans à Paris présente sur la voie publique tous les symptômes d'un infarctus du myocarde massif. L'intervention du SAMU qui est très proche et quasi immédiate, il est réanimé. La réanimation mise en œuvre moins de 10 minutes après l'accident cardiaque et il n'y a pas de reprise des battements du cœur. Et donc, on réanime et le cœur ne repart pas. On le transfère à la Pitié-Salpêtrière, c'est pas loin, et on considère qu'il pourrait bien être donneur à cœur arrêté. Et au moment même où les chirurgiens s'apprêtent à lui prélever ses organes, les médecins ont la grande surprise, je lis l'article, de découvrir que leur patient présente des signes de respiration spontanée, une réactivité pupillaire et un début de réaction à la douleur. Autrement dit, il existe des signes de vie et énoncés équivalents à l'absence de signes cliniques de la mort. Après plusieurs semaines, poursuit l'article un peu plus loin, émaillé de complications assez sérieuses, le patient marche et parle. Les détails concernant son état neurologique ne sont pas connus, on ne sait pas non plus s'il a été informé du fait qu'on a failli lui prélever ses organes, ses deux reins, son cœur, ses deux cornets et son foie. Tout ça pour vous dire, mais ça montre bien, les médecins qui ont fait ça sont des gens hyper sérieux. Au SAMU de Paris, c'est pas des rigolos, enfin, ils ne vous prélèvent pas les reins comme ça au coin de la rue parce que vous êtes tombé de mobylette. Donc, il y a vraiment une difficulté, en fait. Il y a vraiment une difficulté. Donc maintenant, ben voilà sur la mort ce qu'on peut dire. Hein. Bon, sur la mort, la définition de la mort. Quoi. Je pense que c'est important quand même que vous ayez conscience que ça n'a rien d'aussi évident. Il peut arriver des fois dans les services de soins palliatifs, de gérontologie ou autres, qu'on soit interrogatif dans les situations d'agonie, de fin de vie, où on s'interroge si la personne est décédée ou pas. Et on a si peu d'activité, si peu visible, un pouls si imperceptible, etc. Il y a des moments où on peut vraiment douter, on peut laisser passer parfois une demi-heure, trois quarts d'heure, pour être sûr qu'il n'y a pas de réveil spontané, parce que voilà, ça n'est pas simple. C'est des fois assez troublant, tout le monde imaginerait que la mort, le médecin est signé un certificat de décès, bah oui c'est évident, le gars était vivant avant, après il est mort, bah, en fait non. Alors maintenant, abordons ce qui se passe un peu avant. La fin de vie, alors plutôt dans une optique de fin de vie qu'on voit arriver, qui s'annonce, sur laquelle les soignants peuvent intervenir, sur laquelle la personne elle-même peut réfléchir, peut la voir arriver. Quelques repères autour de ça. Les premiers repères intéressants, me semble-t-il, ça reste toujours intéressant, c'est le travail de deuil d'après Madame Kubler-Ross. Cette dame a décrit au fond les étapes du deuil, et même si c'est forcément schématique, c'est une description, on essaie de mettre en forme et en mots des expériences de vie qui sont toujours difficiles, mais il y a quand même quelque chose de très très vrai, et on en retrouve souvent les traces. Alors c'est vrai pour la personne qui voit arriver la mort, mais c'est vrai aussi si vous êtes confronté à la maladie grave, c'est vrai si vous êtes confronté à des événements de santé qui vont amputer votre autonomie, vos capacités, etc. Et nous avons des travails de deuil à faire. C'est vrai aussi pour nos deuils, le décès de nos proches, etc. Donc cette question du deuil, au fond, et du travail de deuil, est une question qui est centrale dans nos vies. Et on en aura tous plein à faire des deuils. Deuil de nos études, qu'on espérait brillantes, et que, etc. Deuil de tout ça, deuil de nos parents, deuil de nos enfants, deuil de nos... Voilà. Donc on a tous plein de deuils à faire. Alors, elle nous dit, Madame Kubler-Ross, que face au deuil, on retrouve régulièrement des réactions. La première, c'est le choc, la sidération, la stupeur. C'est pourquoi moi? Comment ça se fait? Pourquoi est-ce que c'est possible? Puis souvent, une phase de dénégation. Ça n'est pas vrai. Vous me dites que j'ai ceci, mais ça n'est pas possible. Vous me dites que mon enfant est décédé, je ne vous crois pas, il faut que je le voie, c'est pas possible, je ne peux pas entendre ça. Une sorte de refus de ce qui nous est présenté ou de ce qui peut être évident. La colère, la rage. Pas mal de personnes restent dans cette revendication, dans cette colère, quoi. Cette colère envers la médecine qui est si fréquente hein, dans la maladie grave. Combien de personnes vont rester enfermées dans la récrimination ? Et vont rester enfermés dans ce chemin de deuil qui est à faire hein, et sur lequel ils ont du mal à avancer. Et puis, dépression, découragement, tristesse, culpabilité, éventuellement marchandage. Bon, docteur, je veux bien accepter, mais enfin, il ne me faut pas trop ceci quand même ou pas trop cela. Et puis, pour finir, acceptation. L'acceptation, quand on... À la fois par le psychologue là, qui nous parle, mais aussi... quand on est en soins palliatifs ou autre, il y a beaucoup de gens qui ont une vision très négative, il faut que vous acceptez, accepter, mais que ça veut dire, c'est une espèce de défaitisme et tout. C'est pas du tout ça. Hein. L'acceptation, c'est l'acceptation en profondeur et en liberté qu'on a traversé une épreuve et que voilà et qu'on va continuer au-delà et que on va continuer à vivre et que on va continuer à vivre sans vouloir revenir en arrière, mais donc à travers ce qui a pu avoir lieu. En tout cas, ce travail de deuil, c'est assez difficile hein, dans un monde où on idolâtre la performance, au fond. Et là, c'est de plus en plus évident, me semble-t-il. Et quand souffrir semble assez dénué de sens. Alors, lorsque la fin de vie s'approche, la personne elle a un travail de deuil à faire, mais là aussi, et peut-être surtout pour le soignant, avant tout, des symptômes. Des douleurs, des agressions provoquées par les traitements... des nausées, des vomissements, de la confusion, de la constipation, des sueurs, etc., etc., etc. Par exemple, pour faire un catalogue pénible. Et ces symptômes sont pris en charge par les soignants, aussi bien qu'ils le peuvent. Oserais-je dire que la douleur, c'est parfois plus simple, quoi, par certains côtés, parce qu'il y a d'autres symptômes, comme la confusion ou autres, qui sont des fois bien plus difficiles à gérer, à appréhender, à soulager. les perturbations d'image corporelle, la dépendance, le deuil de mon autonomie. Hein. Quelle souffrance quand on se retrouve en maladie, en situation avancée. Voilà. Quelles difficultés avons-nous, sans doute les uns ou les autres, aurons-nous peut-être, et ont nos contemporains à affronter cette question de dépendre des gestes que les autres peuvent poser pour nous aider. Cette relation aux soins n'est pas évidente. Hein. La souffrance en fin de vie, c'est aussi un problème de sens. C'est au fond une expérience personnelle, unique, intransmissible. Et chacun, avec des exemples triviaux, c'est assez facile à comprendre, mais moi, il m'arrive souvent de voir des patients qui viennent me voir parce qu'ils ont un diagnostic de cancer plus ou moins avancé. Et qui me racontent l'histoire de leur oncle, de leur tante décédée d'un cancer il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, ou de leurs parents, dans des conditions parfois qui décrivent comme très pénibles. On ne peut qu'accueillir ça et puis essayer de dire que sans doute aujourd'hui, enfin j'espère, les conditions sont peut-être différentes et qu'on essaiera de faire autrement ou mieux. Mais j'ai aussi à l'esprit le fait que cette mémoire gravée s'imprime fortement sur leur expérience actuelle, au fond. Je ne vais pas vivre de la même façon l'accident de voiture si mon fils est décédé d'un accident de voiture. Vous voyez, ça ne sera pas pour moi la même, ça sera pas pour moi la même histoire. C'est dans ce sens-là aussi que face à la souffrance et à ces épreuves, il y a quelque chose d'intraduisible, parce que c'est lié à nos expériences personnelles, à notre histoire. Et que ça, le soignant, il a beau essayer d'en saisir quelques bribes, il n'est évidemment pas à la hauteur de ça. Comment voulez-vous l'appréhender correctement ? Alors, aussi intéressant, et je renvoie à nos prêtres qui sont là, le malade à l'approche de la mort, ça on dit, c'est toujours vrai dans toutes les cultures. J'ai tendance à croire que ceux qui disent ça ne se trompent pas. Le malade à l'approche de la mort, il va traverser quoi ? Du désintéressement. En gros, tous les trucs qu'il préoccupait jusqu'à présent, quand il sent que la mort est vraiment proche, les priorités sont complètement retournées. Avant, c'était, je ne sais pas quoi, ma bagnole, ma moto, mon truc, mon job, ma réunion de travail, je ne sais pas quoi, mon ordinateur, mon smartphone et tout. Et puis, du jour au lendemain, mes priorités sont totalement, radicalement bouleversées. Désintéressement de tas de choses qui étaient nos préoccupations quotidiennes. Pas évident pour les proches de saisir ça. Et là aussi, d'accompagner la personne dans ce chemin qu'elle fait de bouleversement très profond de ses centres d'intérêt. Deuxième point de repère qu'on considère comme quasiment toujours présent, le souhait de renforcement des liens familiaux, et vient avec et juste après le souhait de réconciliation. Le souhait de réconciliation, il est toujours là. Après, vous trouverez toujours une exception. Hein. Mais donc, si on se pose la question, qu'on interroge des soignants de soins palliatifs qui sont souvent confrontés aux questions existentielles que se posent les personnes en fin de vie, le souhait de réconciliation, le souhait de se réconcilier avec ses proches, avec ses amis, etc., il est toujours présent. Et donc, lorsque un prêtre vient avec le sacrement de réconciliation, il tombe souvent pas mal quand même. Souvent pas mal. Parce qu'il vient en réponse non pas à une demande des chrétiens, il vient en réponse face à une demande extrêmement profonde présente chez tous. C'est assez étonnant, hein, mais réconciliation. Et puis la quête de sens. À quoi ça sert ? Quelle a été ma vie ? Pourquoi ? Quête de sens. Interrogation qui tourne vite au questionnement dans le spirituel. Et donc nous dit-on, c'est vrai, chez les bouddhistes, les machins, au bout de la... l'Afrique, de l'Amérique du Sud, de l'Asie, comme à Lille, dans les services de médecine ou de soins palliatifs, un peu partout, les personnes sont confrontées à ça. Alors, les soignants, face à la rencontre de la fin de vie, d'abord, ils ont envie d'agir. Parce que quand on est soignant, on est formé à agir. À décider et à agir. C'est quand même le cœur du métier de soignant que de poser des actes thérapeutiques. Et donc, on va essayer d'agir. Et face à la souffrance physique, hein, pour commencer, par le plus fastoche, si on peut dire, ça n'est pas toujours, hein, et parfois on est en échec, mais c'est souvent quand même là qu'on a développé les... C'est souvent là, autour de la douleur physique, qu'on a développé le plus de traitements, d'efficacité, de stratégie, etc. Beaucoup, beaucoup d'inventivité, quand même. Enfin, il y a des progrès qui sont absolument incroyables. Incroyables. Moi, j'ai vu une transformation radicale entre ce que j'ai connu lorsque j'ai débuté... il y a bien longtemps maintenant, en cancérologie, et puis maintenant. Donc, les soignants développent des stratégies sophistiquées pour prendre en compte les symptômes, la douleur et les autres symptômes. Et puis, ils essaient aussi de prendre en compte la souffrance psychique, qui est là, bien sûr, avec leur disponibilité, qui est parfois insuffisante, puis aussi leur formation, qui est parfois pas à la hauteur, où voilà, ils se sentent parfois fragiles face à cette souffrance, mais ils savent que parfois que la présence, l'accompagnement le plus simple... est une réponse souvent adaptée. Les soignants s'appuient aussi sur une psychologie qui est plus respectueuse qu'elle n'a été, moins intrusive. En tout cas, il y a des écoles de psychologie aujourd'hui qui sont très soucieuses du respect de l'intériorité, des convictions, etc., qui ne sont pas du tout... Enfin, ça n'a aucun rapport avec une psychologie freudienne, pipi, caca. Enfin, je vous fais une caricature un peu ridicule, mais il y a quand même de ça. C'est qu'il y a des écoles de psychologie... qui ne sont pas toujours pleinement respectueuses de notre intimité et de notre construction, et puis d'autres qui le sont beaucoup plus. En tout cas, moi, les psychiatres et les psychologues que je côtoie à l'hôpital sont profondément respectueux des personnes. Hein. Bon. J'ai croisé une fois des psys qui entouraient une bonne sœur et ils disaient « elle a un délire mystique ». Je disais là, bon, peut-être, peut-être qu'ils sont un peu dans le préjugé et la caricature. Enfin, j'étais pas capable d'analyser la situation. Mais la plupart des soignants sont très respectueux aujourd'hui. Et puis, il y a les souffrances spirituelles ou existentielles. Et là, pour le coup, les soignants sont souvent un peu paumés quand même. Hein. C'est pas forcément leur job non plus, quoi. Face à la souffrance spirituelle, existentielle, etc., on se dit, moi, j'aimerais bien qu'il y ait l'aumônier qui déboule, enfin, voilà, pour rendre service, parce qu'on a besoin de lui. Hein. On a besoin de lui. L'aumônier, l'imam, je ne sais pas qui voulait, hein, le rabbin, le cousin, enfin, mais en tout cas, ceux qui sont en capacité de répondre aux attentes spirituelles de la personne, qui sont en phase, en adéquation avec la façon dont elle a vécu, avec ses souhaits, avec sa spiritualité. Voilà, puis les soignants en fin de vie, bah, ils réfléchissent à la désescalade. Parce que le médecin, l'infirmier, ils savent bien qu'à un moment, il va falloir s'arrêter dans la thérapeutique. On le sait bien. On n'a même qu'une envie, souvent, c'est ça. Je vais vous dire, ce n'est pas toujours facile. En cancérologie, l'exemple, il est tellement... Enfin, là aussi, je vais vous faire une caricature facile. Mais à votre avis, combien de temps faut-il en consultation pour proposer à un patient une nouvelle chimiothérapie? Alors, je sais pertinemment qu'elle a peu de chances d'être efficace. Cette consultation, elle va durer un quart d'heure, quoi. Et combien de temps va durer la consultation où on va convenir ensemble qu'après trois lignes de chimiothérapie, on va peut-être... considérer que la probabilité d'action de la quatrième est faible et on va discuter peut-être de ne pas faire de chimio et de proposer une prise en charge symptomatique et palliative. Combien de temps va durer cette consultation-là? Et qu'est-ce qu'elle me demande à moi comme énergie intérieure? Qu'est-ce qu'elle me demande comme disponibilité? Comme fragilité aussi, comme d'accepter d'être démuni, quoi. Au fond, la thérapeutique, c'est ma citadelle, quoi. Tant que je vous propose de la chirurgie, des rayons, de la chimio, du machin, des trucs, je suis inexpugnable. Je suis peinard. Personne ne viendra me critiquer. Par contre, dès qu'on rentre dans une autre relation qui consiste à... Voilà, à ce moment-là, on est les uns et les autres plus fragiles. Et donc, cette question de la désescalade, quoi, du refus de toute forme d'acharnement thérapeutique, de toute forme d'excès, de toute forme d'obstination déraisonnable, elle nous confronte à nos fragilités. Et donc, beaucoup sont en difficulté avec ça. C'est difficile. Croyez pas que c'est facile. Ce qui est facile, c'est de proposer un traitement. C'est ça qui est facile. Ce qui est facile, c'est d'être dans le thérapeutique. Là, vous n'êtes jamais emmerdé. Quasiment jamais, quoi. Mais bon. Donc, on sait bien. Et donc, les soignants, bah, ils aimeraient pouvoir ne proposer que, alors là c'est important, des soins de base, quoi. C'est quoi ça? Enfin, le terme peut ne pas être reconnu ou employé différemment, mais ce que j'entends par là, de quoi a besoin le malade en fin de vie, mais aussi besoin le SDF au coin de la rue, c'est quoi? Bah, il a besoin d'un toit, d'un vêtement, de chaleur, à boire, à manger, être lavé, et puis une présence amicale, affectueuse, respectueuse. Une présence, en tout cas, déjà, commençons par ça, une présence d'humanité. Et donc, moi, encore il n'y a pas longtemps, là, j'étais aussi présent que j'ai pu auprès d'une amie qui est décédée dans le service de soins palliatifs de l'hôpital. Et au fond, c'est ça qu'ils faisaient, les soignants. C'est ça qui était beau. C'est qu'ils prenaient soin, tout simplement. Et qu'ils avaient réussi à faire marche arrière sur toute la technologie, au fond, toutes les perfusions, les machins, les sondes, les trucs, ou le plus possible. On ne peut pas toujours tout arrêter complètement, mais en tout cas, ce questionnement permanent pour être vraiment dans un accompagnement le plus simple et mettre au cœur avant tout l'humanité, avant la technique. Les soins palliatifs se définissent eux-mêmes hein, dans leur charte. Les soins palliatifs et l'accompagnement considèrent le malade comme un être vivant et la mort comme un processus naturel. Ceux qui les dispensent, les soins palliatifs, cherchent à éviter les investigations et les traitements déraisonnables. Ils refusent de provoquer intentionnellement la mort et s'efforcent de préserver la meilleure qualité de vie possible jusqu'au décès en apportant un soutien aux proches en deuil. C'est magnifique ce que je dis. La définition des soins palliatifs, c'est magnifique. C'est profondément chrétien. Enfin, il y a zéro décalage avec... voilà, c'est parfaitement bien exprimé. Ils sont la juste réponse, au fond, hein, lorsque la fin de vie s'approche. Ne nous y trompons pas, ils ne font pas pour autant disparaître la tentation euthanasique. On peut avoir les meilleurs soins palliatifs du monde, il peut toujours y avoir des gens qui disent « Non, mais moi, votre charité chrétienne, là, vous m'emmerdez. Hein. Foutez-moi la paix, là, avec votre gentillesse, les draps bien tirés et vos sourires à mièvre. Hein. J'en veux plus, quoi. Vous m'exaspérez. Laissez-moi partir. Piquez-moi. » Et donc, toute la bienveillance, tout l'accompagnement, etc., n'enlève pas, ne fait pas disparaître ce cri qui est un cri de colère, de révolte, d'autonomie dans le mauvais sens du terme. Vous voyez, enfin, voilà, c'est ma liberté, c'est moi qui décide. Ne le fait pas disparaître. Ça fait disparaître souvent, mais pas toujours. C'est pas une garantie à 100%. Et même en soins palliatifs, même avec les meilleures équipes, les gens les mieux formés, on peut être confronté à la revendication euthanasique. On peut. Cette revendication, elle est d'ordre philosophique, culturel, etc. Et contre ça... Donc, en soins palliatifs, il y a beaucoup de vocations, plein de soignants, plein de jeunes soignants, plein de jeunes infirmières et tout qui passent. Cette jeune femme qui est décédée récemment, elle me disait, il y a des jeunes kinés qui sont venus dans ma chambre, et ils étaient vraiment super. Ces deux jeunes kinés, quel bonheur. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, ils ont essayé de mobiliser un peu ses jambes, elle avait perdu plein de poids, elle n'était pas bien, et elle remerciait vraiment pour les gestes posés, pour la qualité, pour l'attention, pour... Elle était vraiment reconnaissante. C'était très, très beau, j'ai trouvé. Enfin, donc, il y a beaucoup de vocations, hein, de gens qui ont envie de travailler là, parce que c'est des beaux services, quoi. C'est des beaux services, hein. C'est comme la Réal, SAMU et tout, c'est super marrant, quoi. Enfin, des trucs où on se défonce. Et en soins palliatifs, on se défonce autrement, quoi. Mais c'est aussi une façon de se donner vraiment... de se donner vraiment à fond. Pour des gens qui ont vraiment envie de se donner, c'est quand même des endroits vachement intéressants. Vachement intéressants. Et c'est des lieux de vie. Hein. Là aussi, alors des fois, à la limite, les soins de l'euthanasie, vous dites « Ah, les soins palliatifs, c'est moche comme tout, etc. C'est des mouroirs et tout, c'est ignoble, on ne veut pas y aller. » Mais en fait, en soins palliatifs, souvent, dans le couloir, vous entendez rigoler. Quoi. Les gens sont heureux, les soignants sont heureux. Ils sont heureux de travailler là. Heureux. Alors, en Belgique, par contre, c'est une dépêche qui est sortie sur Génétique, que j'ai retweetée hier soir. En Belgique... les soignants, les infirmières démissionnent des services de soins palliatifs en disant qu'ils sont devenus des lieux d'euthanasie et que c'est vraiment en contradiction avec leur vocation. Et on les oblige à faire le contraire de ce pourquoi ils sont là. Ils ne sont pas venus pour ça, ils sont venus justement pour accompagner et pour pas provoquer la mort. Donc les soins de base dont je parlais tout à l'heure, hein, alimentation, hydratation, hygiène, pudeur et tout, ils sont toujours dus. C'est pas une question d'être médecin ou infirmière, hein. Ça n'a aucun rapport avec ça en fait. C'est une question d'humanité. Si vous êtes infirmière dans le service, ils sont toujours dus aux malades. Mais si vous êtes militant, je sais pas quoi, et que vous prenez en charge les Roms comme le père machin, là, ben, ils sont toujours dus. Il essaiera de les mettre en œuvre. Si vous êtes, je sais pas quoi, militant d'autres choses, ben voilà. Donc, ils sont toujours dus. Lorsque je suis confronté à la souffrance humaine, j'essaierai, et c'est un élan naturel de notre cœur. D'ailleurs, on est, après, on ne va pas toujours pouvoir le faire. On n'est pas tous des saints sur pattes. Pas tous à la hauteur de ce qu'on voudrait. Mais en tout cas, on sent bien intérieurement que ça, on aurait envie de le faire. On se dit, c'est bien le minimum. C'est bien le minimum. Tous les autres soins et traitements doivent être discutés et remis en cause. Et tous les autres soins doivent faire l'objet d'un consentement, en principe. Pff, alors là, qu'est-ce qu'on en est loin, là. Oh, consentement, mon Dieu. Consentement, mais si vous saviez, comme 9 fois sur 10, tout le monde s'en fout complètement du consentement du malade. Hein. Combien de fois on lui demande vraiment son avis, quoi. Il y a pour ceux que ça intéresse, le père Vers Pirenne, jésuite qui a animé le centre Sèvres à Paris, qui a formé des générations de médecins... Il a fait un travail remarquable, il a beaucoup travaillé sur l'éthique médicale et il parle sur la question de la recherche et il dit, pour les soignants qui proposent des protocoles de recherche aux malades, la réalité du consentement que vous obtenez s'observe au fait que parfois il y a des refus. Et donc moi, il m'arrive souvent à des collègues de dire, et des fois, il y a des refus quand tu proposes ça? Et de fait, je dis, ah ben non, jamais, pourquoi? Quelles sont les idées? Donc la réalité du consentement se confirme par le fait que nous observons des refus. Qu'on va laisser la place à l'expression d'une liberté. Et que je ne suis pas là pour forcer les gens. Hein. Après, bien sûr, le suicidaire, je ne vais pas l'aider à suicider. Hein, donc je vais quand même le rattraper s'il veut sauter du pont. Donc à un moment, je vais quand même agir. Pour, hein, même si c'est... Mais généralement, je vais être respectueux de la liberté. Je vais essayer. Je vais en prendre grand. Je vais avoir beaucoup d'attention à ça. Donc le consentement. Alors sur la douleur, il y a une question qui est revenue, je reviens dans quelques minutes sur les lois fin de vie, qui a été beaucoup discutée, et c'est la question de l'acte à double effet ou du volontaire indirect, dans le soulagement de la douleur. Est-ce que le médecin, le soignant ou l'infirmière peut être amené à délivrer des doses de médicaments pour soulager la douleur? Et est-ce que ça pose un problème moral si, en augmentant ses doses pour soulager la douleur, ça peut accélérer, voire provoquer le décès du patient? Et donc, on nous a appris, en je ne sais plus quelle année, je vais retrouver ça dans un instant, en 2005, avec la première loi Leonetti, que le législateur français avait trouvé des réponses à ça. Pour d'autres, ça serait plutôt Thomas d'Aquin qui, au XIIIe siècle, aurait pas mal écrit de choses intéressantes sur cette question. Et il y a peut-être à chercher dans une tradition philosophique et culturelle un peu plus ancienne que 2005 et nos législateurs sur la loi fin de vie pour réfléchir à cet enjeu. Et donc oui, bien sûr, le médecin peut parfois être amené à prendre des risques au fond. Et oui, bien sûr, le soignant, il prend des risques tous les jours. Et oui, si je propose d'opérer cet enfant né avec une grave malformation cardiaque, eh bien, c'est légitime. Et est-ce que c'est dangereux? Ben oui, c'est dangereux, l'opération. Est-ce qu'il peut mourir dans l'opération? Mais oui, il peut mourir pendant l'opération. Est-ce qu'on va le faire quand même? Mais oui, on va le faire quand même, parce qu'on sait qu'il y a de bonnes chances qu'on le tire d'affaire. Et donc, on accepte de prendre des risques très graves, même des risques mortels, pour soigner, pour prendre soin, etc. Je vous prends là aussi volontairement un exemple caricatural. Pour soulager la douleur, est-ce qu'on peut prendre des risques? Mais bien sûr qu'on peut prendre des risques. Et si c'est nécessaire, on augmentera le traitement de la douleur. Et si la personne souhaite être mieux soulagée, on montrera ses antalgiques. Mais il faut bien sûr que ce soit proportionné. Je ne vais pas mettre 10 fois la dose. Hein, ça nécessite un peu de prudence, un petit peu d'expérience. On peut assez facilement voir quand on pousse volontairement le bouchon trop loin dans une intention euthanasique ou lorsqu'au contraire, la prescription elle est ajustée avec expérience et avec prudence pour soulager, quitte peut-être à prendre des risques. Bon, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de gens qui meurent de morphine, je pense. Pas beaucoup. Hein. Si ça arrive, c'est exceptionnel. Mais en tout cas, c'est un repère important. Et puis, le soignant, il essaiera de respecter la conscience. Alors ça, par contre, alors là, c'est assez mal barré actuellement, je peux vous dire. Autant sur la douleur, sur le machin, sur les soins de base et tout, je dirais que les prises en charge sont quand même plutôt très bonnes. J'ai très bonne impression. Autant sur le respect de la conscience, là, forcément, c'est plus difficile. Respecter la conscience, c'est ne pas endormir tout le monde. C'est éviter que, comme dans un grand hôpital très grand, à moins de 40 km de Lille, l'hypnovène, qui est le truc qui sert à la sédation, soit le premier poste de dépense en médicaments, par exemple. Ce qui en dit long sur la façon dont les malades sont accompagnés dès que les choses vont mal. Donc, respecter la conscience, c'est aussi, parce que, bon, on pourrait, mais face à celui qui exprime de l'angoisse face à la fin de vie, je peux le bourrer d'anxiolytique et de tranquillisant, et avoir un gars le lendemain dans son lit, comme ça, comme fait De Vos, là. J'arrive pas à faire la grimace, mais il l'a fait très bien. C'est pas respecter la conscience des gens, ça. Hein. Et donc, cette question, cet enjeu de respecter la conscience, de respecter l'intériorité, de respecter, voilà, et de respecter l'état d'esprit et d'accepter que des gens puissent passer par des interrogations violentes, par des révoltes, par des colères, etc., par des angoisses, d'accepter que ça soit normal, que ça fasse partie d'un chemin de fin de vie, de bien sûr soulager et agir si la personne demande à être soulagée, mais aussi de l'accompagner dans cette épreuve et dans ces moments où... voilà. Donc respect de la conscience. Et puis droit du mourant d'être informé sur son état de vie. Encore, il y a quelques jours, là, j'étais dans une réunion avec d'autres médecins et tout. On parlait stratégie médicale et ainsi de suite. Et moi, je leur disais, c'est bizarre parce que je suis sur le même type de cancer dans trois réunions par semaine, des cancers digestifs, une réunion à Scarambray, une réunion au CHU, puis une réunion à Saint-Philibert. Donc, c'est des groupes de médecins, on voit tous les dossiers, on réfléchit en équipe et puis on fait des propositions de traitement. Et il y a un seul de ces hôpitaux dans lequel, à peu près une fois sur trois, on dit soins palliatifs. Et dans les deux autres, c'est quasiment jamais. C'est pas que les malades sont différents. C'est une question de culture médicale. C'est une question de culture médicale et de difficultés qu'ont les soignants à prendre acte. Pourquoi ? Parce qu'après, il va falloir se le dire, quoi, entre soignants et patients, et proches. Et donc, prendre acte, et puis... voilà. Un des problèmes, c'est que c'est plus facile à dire si on l'a anticipé. Si je dis à quelqu'un au tout début d'une prise en charge d'une maladie, eh bien, et puis on est d'accord que si un jour on fait le constat que les traitements marchent moins bien, etc., je vous promets, on vous le dira, puis on arrêtera, on ne poursuivra pas un truc qui n'a pas de sens, et puis vous savez, les traitements sont toxiques, et donc il ne faudrait pas que vous ayez plus d'inconvénients que d'avantages, et donc voilà, on en parlera librement. C'est plus facile que si pendant 2, 3, 5 ans, 10 ans des fois, on dit « Ouais, c'est génial, j'ai une nouvelle chimio formidable, un nouvel essai, un nouveau truc, un nouveau médicament, c'est super et tout. Voilà. » Et puis tout d'un coup, du jour au lendemain, « Ah ben non, maintenant c'est fini. » C'est même pas possible. Et donc, cette parole de vérité, au fond, mais qui est en lien avec ce droit de la personne à être informée sur son état de vie, ça n'est possible que si on a été capable d'anticiper un petit peu. Alors maintenant, la loi fin de vie. Je vous la résume brièvement. Je vous refais l'histoire, moi, telle que je l'ai vécue. Septembre 2003, Vincent Humbert. Vous vous souvenez de Vincent Humbert pour les plus âgés ? Les plus jeunes, peut-être pas. Vincent Humbert, jeune pompier volontaire, accident de moto, coma, hospitalisé à Berck, et en état végétatif, comme on dit, c'est-à-dire que en état de coma prolongé, avec pas d'espoir de réveil. Mais quand même, quelques communications. Il y a des petites choses. Il y a des petites choses. Par moments, dit son kiné, il sourit, etc. Donc, la communication n'est pas totalement éteinte. En tout cas, Vincent Humbert est hospitalisé à Berck. Ça dure depuis plusieurs années. Et sa mère, Marie Humbert, réclame l'euthanasie de son fils. Elle va écrire à l'époque, c'est Jacques Chirac, demander la mort et tout. La loi sur l'euthanasie, il refuse, ainsi de suite. Enfin bon. Tout un truc, toute une grande cabale médiatique. Et puis, en septembre 2003, Vincent Humbert est euthanasié. Enfin, sa mère pose un geste de mort qui n'aboutit pas. Il est envoyé en réa et c'est le médecin qui injecte du potassium et qui donc termine l'acte posé par la mère initialement. Et le bouquin sur Vincent Humbert sort le lendemain. Comme par hasard. Donc... la manipulation est allée jusqu'à provoquer la mort la veille de la sortie du livre. Parce qu'on ne vous faites pas sortir un livre demain matin, si vous le décidez ce soir. Hein. Enfin, je vous mets au défi, mais vous aurez un peu de mal quand même. Hein. Ouais. Et donc, à l'époque, alors, la France entière est favorable à l'euthanasie, tout le monde applaudit, sondage, 98% des Français favorables à la piqûre létale, etc. Enfin, unanimité, tiers de barrage médiatique dans tous les sens, aucune voix ne peut s'exprimer pour émettre un doute même hein, sur l'attitude qui a été tenue. Donc, l'euthanasie a gagné les esprits, 2003. En automne 2003, Jacques Chirac nomme Jean Leonetti, avec qui j'ai un peu d'animosité, mais aussi du respect. Vous allez voir, enfin, mon avis est partagé sur Jean Leonetti. Donc chargé par Jacques Chirac d'une mission sur l'accompagnement de la fin de vie. Et Jean Leonetti va faire un travail extraordinaire. Ceux qui font du droit, des sciences politiques, etc., allez retrouver sur le site de l'Assemblée nationale les rapports qui ont été faits à cette époque dans la préparation de la loi fin de vie de 2003. C'est fantastique et vous avez l'audition de toutes les personnes qui ont des trucs intéressants à dire là-dessus, de tous les euthanasieurs, bien sûr, les francs-maçons et des machins et de la DMD, mais aussi des soignants, des philosophes, des sociologues, etc. C'est absolument génial. Et donc, deux ans après, hein, après deux ans de maturation pour cette loi, il y a la loi Leonetti qui est votée à l'unanimité, la seule fois sous la Ve République qu'une loi est voté à l'unanimité des votes exprimés. Il y a quelques abstentions, 3 ou 5, je ne sais plus, mais tous les autres votent pour. Alors cette loi, à la fois, c'est une bonne loi, elle limite la casse, elle récuse l'acharnement thérapeutique et l'euthanasie, elle définit l'alimentation et l'hydratation comme pouvant être des traitements. Et ça, c'est en contradiction avec ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les soins de base, dû à toute personne, qu'on soit malade ou pas, alimentation, hydratation. Et donc, on atteint un niveau de complexité. C'est-à-dire que la question, c'est comment j'alimente et comment j'hydrate. Est-ce que donner à manger la petite cuillère, c'est de l'alimentation soin de base? D'accord. Est-ce que donner à manger avec une sonde, c'est plus que ça? Est-ce que poser une perfusion, c'est plus? Où commence la médecine? Où commence la thérapeutique? Où s'arrête le soin élémentaire? Où est-ce qu'on franchit cette limite qui fait qu'on est dans le simple soutien à une humanité souffrante et qu'on atteint un niveau d'intervention qui peut être discuté et critiqué au regard de la liberté, du refus, du machin, de la proportionnalité des soins, d'un équilibre à trouver entre l'agressivité médicale et l'intérêt qu'en tire la personne. À l'époque, donc, nous, on critique, moi j'étais président de l'Alliance Vita, à l'époque, on critique ce texte. Au fond, c'est une catastrophe. Pourquoi ? Parce qu'il accepte de légiférer sur la pratique médicale en fin de vie. Et qu'à partir du moment où j'ai accepté cette idée, que c'était le législateur et donc le juge en cas de conflit qui règle la question de la fin de vie, c'est foutu. Parce que à partir du moment où il y a une loi qui va comme ça, vous en aurez une deuxième, et puis une troisième, et puis de la jurisprudence, et puis des procès, et puis des machins, et puis on est parti dans une spirale sans fin. Et on le savait très bien, et la suite nous l'a confirmé. Donc cette loi, elle récuse l'acharnement thérapeutique et l'euthanasie. On dit, c'est formidable, vraiment, quelle invention quand même, un nouveau chemin à la française, refuser l'acte de mort et refuser les excès thérapeutiques. Alors certains, des médecins mal intentionnés dans mon genre, disent « Bah ouais, enfin, quand même, primum non nocere, Hippocrate 410 avant Jésus-Christ. Hein. » Moi, j'ai appris ça à la fac. Hein. J'ai pas attendu Jean Leonetti et 2003 pour apprendre qu'il fallait pas faire de soins disproportionnés. Hein, que d'abord, le médecin devait ne pas nuire. Quoi. Et que donc, la réflexion doit être permanente, le médecin et le soignant, dans l'équilibre de ce qu'on fait. On est là pour rendre service aux gens, on n'est pas là pour les enquiquiner. On n'est pas là pour leur proposer des soins disproportionnés, déraisonnables. On s'interroge tout le temps, toujours. Et puis la deuxième repère, c'est « Tu ne tueras pas, Décalogue, Moïse, Mont Sinaï, 700 avant Jésus-Christ. Hein. » Bon, c'est pas d'hier non plus, quoi. Donc, récuser l'euthanasie et l'acharnement thérapeutique, c'était, au fond, c'est là-dessus qu'était bâti notre droit. C'est là-dessus qu'était bâtie la déontologie médicale. Alors pourquoi est-ce qu'il a fallu légiférer pour répéter la même chose et pour faire une loi qui maintenant pose problème? Eh bien, il a fallu légiférer, nous dit-on, parce qu'à l'époque, l'opinion était tellement favorable à l'euthanasie qu'il a fallu montrer qu'on avait réfléchi, travaillé et légiféré, parce qu'aujourd'hui, les politiques ne savent plus s'en sortir autrement qu'avec des lois. C'est très très embêtant, parce qu'ils font énormément de bêtises comme ça, en fait. Énormément, quoi. Ils en rajoutent des couches considérables. Et donc on cesse d'empiler des lois qui souvent sont mal ficelées et qui nous posent des tas de soucis. Alors l'histoire reprend, il y a eu plein d'autres épisodes, mais elle reprend principalement avec Vincent Lambert. C'est étonnant, hein, Vincent Humbert et Vincent Lambert. Rien que c'est troublant, c'est... Enfin bon, ça n'a aucun rapport, vous me direz. Ça me trouble quand même. Il y a des trucs troublants. Voilà. C'est un signe, comme dirait l'autre. Enfin. Donc, Vincent Lambert, là aussi, accidenté, coma, vous savez, l'histoire, des parents bien chrétiens, un jeune homme infirmier, je crois, de son métier, et puis sa femme, qui, au bout de quelques années, est hospitalisée en soins palliatifs à Reims. Pourquoi en soins palliatifs? C'est assez étonnant, mais bon. En soins palliatifs à Reims, dit qu'il faut arrêter d'alimenter et d'hydrater. Et donc, l'équipe médicale, docteur Carrière, qui médecin de soins palliatifs, qui va devant les caméras et qui explique pourquoi il est légitime d'arrêter l'alimentation et l'hydratation de Vincent. Et alors, vous avez plus ou moins suivi cette histoire, parce que vous ne pouvez pas ne pas en avoir entendu parler. En tout cas, soyons bien clairs, hein, Vincent n'a pas de perfusion, il n'a pas d'intubation, il n'a pas de respirateur, il n'a pas de... Voilà. Il est vraiment soin de base, lui. Il a le minimum. Un toit, un drap, une toilette, un peu à manger. Il déglutit plus ou moins. En tout cas, rien de compliqué. Rien de compliqué. Et donc, la question qui est posée, c'est Vincent, est-ce qu'il est vivant ou mort? Pour certains, il est mort. Pour d'autres, il est tout à fait vivant. Pour ses parents, il n'y a pas de doute, il est vivant. Pour certains transplanteurs, est-ce que vous avez dit tout à l'heure de modification de la loi? Ah non, non, bah, il est tout à fait mort. On pourrait lui prendre ses reins demain si les parents étaient un peu moins pénibles. Donc, il est vivant, me semble-t-il. Et alors, pourquoi est-ce qu'on voudrait arrêter son hydratation et son alimentation? Ben la seule raison, c'est, j'ouvre des guillemets et j'exprime le fond de ma pensée, on veut parce qu'il ne meurt pas assez vite, au fond. Et ce qui provoque cette intention d'arrêter l'alimentation et l'hydratation, c'est bien la perspective qu'il peut vivre des années. C'est bien ça qui est troublant et sans doute désespérant pour son épouse ou ex-épouse. En tout cas, Vincent Lambert... Cette histoire est très emblématique. Hein. Alors, c'est comme toujours, après, il y a quelque chose de très obscène à déballer ces histoires. Maintenant que c'est fait sur la place publique, j'en parle et je l'utilise, parce que c'est une histoire publique. Mais il aurait été bien préférable que ce drame reste dans l'intimité des personnes. Pourquoi? Parce que la conséquence de ça, c'est qu'on légifère pour prendre en compte Vincent Lambert. Et puisque le neveu, alors moi souvent je me dis, bah tiens, j'aimerais pas que des neveux s'occupent de moi si j'étais en réanimation, hein. Qu'est-ce qu'il vient foutre celui-là dans l'affaire? Bon. Donc le neveu, lui, il dit, ah bah s'il avait pu s'exprimer, il aurait sûrement voulu mourir. Enfin, de quoi je me mêle, et puis qu'est-ce qu'il en sait, quoi. Et donc se pose la question aujourd'hui de dire, mais qu'est-ce qu'on fait pour ces gens qui peut-être bien qu'ils auraient voulu mourir, mais qui peuvent pas dire qu'ils voudraient mourir, et qu'on ne peut pas leur arrêter leur traitement, et comment on s'en sort de cette affaire? Et comment on se sort de ce imbroglio juridique autour de Vincent Lambert? Et donc, on a une loi Leonetti-Claeys, à nouveau Leonetti qui représente la droite, et Claeys qui représente le Parti Socialiste, sous la présente législature, votée le 2 février 2016. Cette loi réaffirme le droit aux soins palliatifs. Bon, c'est bien sympa, mais il faut qu'il donne les moyens de développer des services partout où il y en a besoin. Et le législateur ferait bien de se bouger un peu avant de légiférer, d'abord pour rendre un accès égal dans toutes les régions de France. Ce serait bien la moindre des choses. Vous voyez. Il y en a qui ont d'ailleurs été épinglés parce qu'ils voulaient une loi sur l'euthanasie, et puis il n'y avait rien dans leur coin. Alors on a dit, commencez par vous occuper de votre secteur, là, puis après on verra. Enfin donc, la loi Leonetti-Claeys, elle dit soins palliatifs, mais elle dit aussi directive anticipée, personne de confiance, et sédation profonde et continue jusqu'au décès. Et donc là, on a plusieurs points qui sont des points de grande difficulté. Directive anticipée, ça veut dire que j'écris avant des choses sur ce que je voudrais au moment où la mort s'approchera. On parle de quoi? On parle des personnes qui vont affronter une démence et qui disent « moi, je ne veux pas vivre dément, etc. et je refuse qu'on fasse ceci ou cela, par exemple qu'on me nourrisse lorsque je serai dément ». On parle de maladies neurologiques comme des scléroses latérales amyotrophiques ou des maladies, des scléroses en plaques très avancées, des maladies de Parkinson, et des gens qui disent Si un jour je ne suis pas capable de m'exprimer, j'accepte ou je refuse qu'on me fasse une trachéotomie et qu'on me mette un ventilateur, par exemple. J'accepte ou je refuse qu'on m'alimente au moyen d'une gastrostomie. Donc, directive anticipée, avec toute la place que ça peut donner à une forme de... à une forme de consentement et donc de place de laisser la liberté des personnes, ça pourrait être une bonne chose. Mais bien sûr, avec tout le risque, et d'ailleurs les premiers qui s'en réjouissent, c'est les militants de l'euthanasie, tout le risque qu'on écrive, qu'on veut la piqûre létale, qu'on veut machin, qu'on veut truc, voilà, que les gens écrivent, reprennent la dialectique de l'euthanasie pour s'exprimer là-dedans et qu'on se retrouve avec une situation extrêmement complexe à régler. La personne de confiance est celle qui s'exprime à votre place si vous ne pouvez pas vous exprimer. Et ce n'est pas forcément le conjoint. Donc là aussi, ça crée des situations assez bizarres. La personne de confiance, c'est la personne que vous désignez quand vous entrez à l'hôpital. On vous dit, c'est qui votre personne de confiance? Alors on vous dit, c'est machin. Souvent, vous dites, c'est votre conjoint, pardon. Ou votre frangin, ou votre frangine, enfin, un truc simple et proche. Mais la personne de confiance, elle peut être amenée à donner des avis assez... Voilà. Si Vincent Lambert a désigné son neveu comme personne de confiance, par exemple, c'est très embêtant, quoi, parce que le neveu, il est très mal intentionné. Voilà. Et puis la sédation profonde et continue jusqu'au décès, c'est des gens qui vont dire, moi maintenant... là aussi, je caricature, parce que c'est pas souvent utilisé comme ça, mais c'est la crainte que nous voyons arriver... Des gens qui vont dire, maintenant, moi, je considère que ça a assez duré, vous allez m'endormir. Pardon, je vous endormir? Oui, j'ai droit à la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Pardon? Oui. Donc, je vous demande de m'endormir. Je souffre trop, ou j'en ai assez, ou je ne supporte pas cette situation, et je vous demande de provoquer l'endormissement. Et pendant cette sédation profonde et continue, le médecin ne peut pas alimenter et hydrater. Ça fait partie du package. Sédation profonde et continue, et arrêt d'alimentation et d'hydratation. Alors, je vous lis ce que disait Helga Kuse, universitaire australienne, en 1984 à Nice, au congrès mondial de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité. Elle dit « Si nous pouvons obtenir des gens qu'ils acceptent la suppression de tout traitement et soin, spécialement l'arrêt de toute alimentation, ils verront combien mourir est un chemin douloureux et alors ils accepteront pour le bien du malade l'injection létale. » Et évidemment, cette sédation continue et tout jusqu'au décès est un pas en avant extrêmement préoccupant vers la dérive euthanasique. Et sera utilisé et est utilisé dès maintenant dans une intention euthanasique par certains. Donc cette loi, elle est carrément mauvaise et euthanasique. Elle ne l'est pas forcément. Si la personne qui lit le texte et l'interprète veut agir avec droiture et tout, elle peut, mais on peut se retrouver confronté à des familles qui exigent des choses qui sortent complètement, qui soient réellement transgressives. Et celui qui veut l'utiliser dans une intention euthanasique, eh bien, il peut utiliser les textes actuels pour provoquer la mort. Alors maintenant, une petite anecdote. Vincent Lambert à nouveau, en mai 2015. Donc, vous savez, c'est lui hospitalisé à Reims, les parents, machin et tout, Carrière et tout ça. En mai 2015, ses parents diffusent une vidéo de Vincent. Pourquoi? Parce que dans la presse, on dit que Vincent, c'est un légume et tout, voilà, donc ça n'a aucun sens. Il faut le laisser partir en paix. Et donc, les parents diffusent une vidéo. Et cette vidéo est troublante parce que Vincent tourne les yeux vers la personne qui lui parle. Parce qu'il cligne des yeux, qu'il déglutit, qu'il semble sourire. Et ça, pour un légume, c'est bizarre, quoi. Ouais. Et au fond, cette vidéo de Vincent Lambert, elle fait ce que dit Emmanuel Lévinas sur le visage. Le visage, c'est ce qui nous interdit de tuer. Le visage de l'autre. On n'a pas le temps de trop digresser, mais... C'est vraiment une question... Il s'est passé là un événement très très intéressant. Alors les médecins disent c'est des réflexes. Je pense que les médecins ont des arguments pour le dire. Et que ça peut être en bonne partie réflexe, peut-être complètement réflexe. Et donc je ne suis pas certain que le fait que des yeux issus de la personne qui parle, qui cligne les yeux, etc., soit des preuves de conscience. Je ne suis pas du tout certain de ça. Pas du tout. Mais il y a un trouble. Donc médecins disent ces signes de vie ne sont en réalité que des réflexes, mais bon, les médecins là-bas, on les sent moyennement bien intentionnés quand même. Et les journalistes, les politiques nous font la leçon. Vincent Lambert n'avait pas donné l'autorisation qu'on le filme. Il fallait donc flouter son visage. Alors, gros scandale sur le droit à l'image. Mais si, c'est absolument la réalité de ce qui s'est passé. C'était très, très intéressant. Très intéressant. Et quelques jours à peine, Xavier Gors, journaliste corrosif du Monde, dessine Vincent dans son lit comme une carotte. Oui. En fait, il le dessine en légumes avec sa mère à côté. Et donc, à l'époque, enfin, souvent, vous voyez souvent ces débats hein, sur montrer le visage ou pas, est-ce qu'on montre l'enfant mort, est-ce qu'on montre le truc, est-ce qu'on montre le cadavre, est-ce qu'on montre pas, comment est-ce qu'on respecte la dignité de la personne, comment est-ce qu'on la respecte pas, jusqu'où on va, etc. Donc les parents, ils montrent Vincent pour montrer cette dignité, ils veulent montrer son visage, parce qu'ils savent que voir son visage, ça va retourner complètement toute une partie des gens qui vont regarder. Parce que vouloir la mort de quelqu'un qui est loin, dans un lit caché, dont on me dit qu'il a des tuyaux partout, c'est une chose. Vouloir la mort de quelqu'un dont je vois en face de moi le visage, c'en est une autre. C'en est une autre. Voilà, cette polémique, en tout cas, a été très utile, au fond, pour parler du mystère de l'homme. Très utile. Autre anecdote, plus récente. Jean Mercier, 88 ans, militant de l'euthanasie, jugé en appel pour avoir provoqué la mort de sa femme en 2011. Josiane Mercier n'était pas en fin de vie. Elle ne souffrait d'aucune maladie incurable. Elle a été suivie pour arthrose et pour anxiété. C'est au nom de son engagement dans la DMD, ce charmant lobby de la piqûre létale, que Jean Mercier a revendiqué son geste. Il veut faire bouger la législation française. Et donc, le 10 novembre 2011, sa femme s'était cassée le poignet. Elle se réveille en se plaignant. Catastrophe. Elle lui demande des médicaments pour la douleur. Jean Mercier dit... C'était la première fois qu'elle m'implorait. On s'était promis de s'aider à en finir. Et je ne pouvais pas faire autrement. Et donc, il la tue. C'est horrible, c'est dingue. Octobre 2015, il est condamné pour non-assistance à personne en danger à une peine de principe d'1 an avec sursis. En novembre 2016, en cour d'appel à Lyon, il est relaxé. Et cette relaxe est confirmée en cassation en décembre 2017, donc tout récemment. Voilà. Est-ce que c'est une dépénalisation jurisprudentielle de l'euthanasie ? Ben, certains ont... En tout cas, le lobby de l'euthanasie veut le voir comme ça. Et d'autres voilà, sont plus perplexes. Quelles seront les conséquences de ce jugement ? En tout cas, Jean Mercier a tué sa femme de 87 ans parce qu'elle avait mal au poignet, parce qu'il se l'était promis. Et il est acquitté, relaxé. Voilà. Donc c'est là que nous en sommes. Hein. Le contexte sociétal, une société marquée par la puissance de la médecine, au fond. Et même si vous la récusez, vous en êtes fasciné quand même. Détrompez-vous. Vous êtes fasciné par la puissance de la médecine. Et les médecins aussi sont fascinés. La société entière est fascinée par la puissance de la médecine, par ce qu'on peut faire. Donc ça, c'est un fait absolument marquant, radicalement marquant, hein, du monde d'aujourd'hui. Avec une tentation à croire à l'immortalité ou une forme d'immortalité. En tout cas, on croit à la toute-puissance de la médecine, ça c'est sûr. L'effacement du fait religieux et puis la montée en puissance de l'autonomie, quoi. L'autonomie dans le mauvais sens du terme, hein, c'est-à-dire dans le sens enfin, anglo-saxon, etc. Enfin, pire qu'anglo-saxon. Les anglo-saxons ont un sens moins étroit que l'autre, pardon, mais nous, pour moi, l'autonomie, c'est vraiment, mec, ah, je dépends de personne, quoi. C'est grave, hein. On dépend tous de plein de gens. Hein. Vous n'êtes totalement pas autonome. Hein. Là aussi, si on prend soin de réfléchir 3 minutes, hein, on dépend de la société tout entière et tous ceux avec lesquels nous vivons au quotidien. Enfin, passons. Donc, autonomie. Donc, il y a des fortes tensions hein, entre cette aspiration à l'autonomie, l'autodétermination, et puis la fatalité, la maladie, la souffrance, la mort et tout. C'est impossible. Quoi. Comment régler ça ? Comment régler ça ? Les problèmes de la médecine, les technosciences, et puis en même temps la souffrance. On pourrait croire que la médecine a réponse à la souffrance, et pourtant les gens souffrent encore. Comment est-ce possible ? C'est quand même inadmissible. C'est vrai que les gens souffrent encore, alors que la médecine fait tellement de choses. Et puis un cadre juridique qui est complètement largué. Bon. Par ailleurs, la mort est omniprésente. Vous ouvrez la télé, machin, au cinéma, enfin bon, Donc la mort est totalement présente, omniprésente et complètement virtuelle. Donc nos contemporains, et les plus jeunes encore plus que les plus âgés, ont une vision de la mort comme une évidence, quelque chose de très proche et en même temps très distant. Ils ne savent pas ce que c'est. Souvent, ils ne l'ont pas approché, ils ne l'ont pas vu. Il n'y a plus de mise en scène collective. Autrefois, mais j'ai encore souvenir, étant gamin, j'ai encore vu les tentures aux immeubles à Paris, par exemple. Bon, et puis dans l'église et tout, on mettait des grands bras noirs. Enfin, voilà. Il y avait une mise en scène collective de la mort. Puis ensuite, il y avait le corbillard avec les gens endeuillés. Moi, j'ai vu des corbillards avec des gens qui marchaient derrière, habillés en noir. Voilà. Ça se voit encore peut-être un peu. Mais aujourd'hui, les corbillards sont roses, quand même. Hein. Mauve, quoi. Ça se perd, disons. Hein. Ben, c'est un très grave problème, en fait. C'est un très grave problème, parce que si vous n'avez plus de relations collectives à la mort, les gens sont totalement perdus et terrifiés. Et plus j'ai peur de la mort, plus j'ai envie de l'anticiper, au fond, ou de la maîtriser, ou de prendre pouvoir sur elle. Donc il y a un lien direct entre l'évolution culturelle par rapport au rite de deuil, par rapport à l'accompagnement du mourant, etc., et puis la tentation euthanasique, ça va ensemble. Voilà. Le mourant est une nouvelle catégorie entre la vie et la mort, pris en charge dans des endroits un peu particuliers qu'on appelle les soins palliatifs. Donc c'est plus tout à fait un monde de vivants, c'est pas tout à fait un monde de mort. Là, je fais une caricature, mais je reprends des analyses que font les sociologues et qui me semblent tout à fait intéressantes et pertinentes. C'est très pertinent. Et donc, aujourd'hui, ben, la mort, elle est, voilà, cette personne, elle est dans une catégorie un peu bizarre. Alors les soins palliatifs disent « Non, mais chez nous, c'est la vie, etc. Il n'y a que des vivants. » Oui, ben, bien sûr, je suis évidemment d'accord. Mais dans notre imaginaire collectif, celui qui est en soins palliatifs, il est quand même un peu mourant. Hein. Un peu sérieusement mourant. Hein. Et on pourrait avoir tendance à en faire une catégorie intermédiaire. Oui. Donc le mourant, au fond, qu'est-ce qu'il a comme choix ? Se battre jusqu'au bout, c'est le chevalier... insubmersible. Il va se précipiter dans une forme d'acharnement thérapeutique, une espèce de folie de démence, quoi. Se battre jusqu'au bout, ça veut dire quoi ? Ça veut dire refuser d'accepter, ça veut dire refuser de faire un chemin de deuil, ça veut dire être dans le déni par rapport à ce qui arrive, par rapport à la mort qui s'annonce, par rapport à... etc. Croire dans la toute-puissance de la médecine, mais c'est une salvatrice, alors que... folie. Ça peut être offrir sa mort sur l'autel de la toute-puissance médicale. C'est très très beau, c'est romantique, c'est l'euthanasie. C'est romantique, donc voilà, je décide que je meurs, je me mets en scène. Vous avez vu peut-être des vidéos en Suisse, hein, donc voilà, il y a une douce musique, une jolie chambre, on accompagne bien la famille, ils sont là, tout le monde pleure un petit peu, éventuellement on se dit un mot d'adieu, puis on lui donne son verre, il boit et hop, il meurt. Pardon. Donc c'est vraiment le fantasme romantique d'une mort maîtrisée, enfin... C'est hyper bizarre. C'est la deuxième option. Et puis, la troisième, bah, c'est accepter et parler de sa mort, quoi. Soin palliatif. Alors là, vous êtes obligé de faire un beau chemin de mort. Vous êtes en soin palliatif, alors là, vous acceptez, vous discutez, vous vous réconciliez, vous faites le chemin, quoi. Sinon, ça va pas. Donc, vous êtes contraint ou un peu mis en demeure de faire la belle mort emblématique des soins palliatifs. Et bien, souvent, c'est pas si simple. Y a-t-il encore une place pour l'abandon, pour le lâcher prise, en silence, dans la discrétion, dans la paix, dans la réconciliation, quand même, intérieure, ou avec Dieu ? Le mourant est vraiment mis en demeure de... Vous voyez, c'est très théâtral. Il y a quelque chose de cet ordre-là, quand même. Et c'est pour ça qu'il y en a plein les médias, plein les machins, que dès qu'on parle... Enfin, que l'euthanasie est un truc à la mode. Quoi. C'est magnifique. Notre société de l'autonomie donc, exige qu'on prépare notre mort. Donc on fait son contrat d'obsèques, on écrit son propre discours pour ses funérailles, on imprime son livret de messe. Mon épouse va à un enterrement demain où la personne qui est décédée a déjà fait son livret de messe il y a 3 mois. Quoi. Il est déjà imprimé dans les cartons, il n'y a plus que la date à rajouter à la main. C'est vrai. Hein ? On réclame la crémation. Chacun doit être propriétaire de sa mort. Au fond, elle m'appartient comme un truc que je veux vivre, théâtralisé, etc., et dans lequel je veux faire passer un dernier message. Donc, voilà, c'est le monde d'aujourd'hui. Alors, il évolue avec la sédation, puisque la sédation, c'est la nouvelle injonction du bien mourir. Voilà. Et donc, bien mourir demain, eh bien, c'est bien sûr ne pas prolonger inutilement la vie, mais ça, je suis d'accord avec ça. Mais c'est le droit à la sédation. Mourons zen, mourons endormis, pour une fin digne et apaisée. N'angoissons pas nos proches. Voilà, donc ils ne veulent pas avoir l'agonie, ça leur est pénible, moi aussi. Donc, on s'organise bien, et puis on vous endort, c'est nickel. C'est le droit à la rupture relationnelle définitive. Et au fond, la sédation est envisagée non pas avant tout pour des souffrances physiques, mais avant tout pour des souffrances psychiques et existentielles. Et c'est l'outil pour couper la relation. C'est bien pour ça qu'elle est là. C'est pour couper la relation. En pensant tout résoudre, donc en fait, on pose des dramatiques problèmes. Charte des personnels de la santé, numéro 124. Il ne faut pas, sans des raisons graves, priver le mourant de sa conscience. Parfois, le recours systématique aux narcotiques qui réduisent le malade à l'inconscience cache un désir souvent inconscient, nous dit l'Église catholique, chez les professionnels de la santé, de ne pas maintenir une relation avec le mourant. Très juste. De sorte que l'on ne cherche pas tant à soulager la souffrance du malade, mais plutôt les inconvénients résultant de son état. On prive le mourant de la possibilité de vivre sa mort en le plongeant dans une inconscience indigne d'un être humain. C'est la raison pour laquelle l'administration des narcotiques dans le seul objectif d'éviter au mourant une fin consciente est une pratique vraiment déplorable. L'utilisation des médicaments pour soulager la douleur, pour soulager l'angoisse, etc., c'est légitime. Si par contre mon seul objectif c'est de lui couper le sifflet parce qu'il exprime sa vision prochaine de la mort, c'est quand même bien ça la question qui est posée, et bien là on est manifestement dans le dérapage. J'ai presque fini. En conclusion, ben d'abord la revendication euthanasique, elle résulte d'une évolution de la société, de plein d'éléments qu'on a donnés, qui me semblent assez transparents au fond. Bien sûr que ça peut persister malgré un traitement bien conduit, des douleurs bien soulagées et tout. Et quand on voit dans les débats, des fois, on dit contre l'euthanasie, il faut les soins palliatifs. Je dis oui, bien sûr, il faut les soins palliatifs. C'est un minimum préalable, mais il faut bien autre chose. Il faudrait bien autre chose. Les soins palliatifs ne sont pas la réponse totale et définitive. Il faut bien sûr refuser tout fatalisme face à la tentation suicidaire. C'est assez paradoxal, hein, parce que dès qu'on parle de suicide, les gens sont prêts à... Alors, on voit même des gens politiquement corrects et favorables à l'euthanasie qui seraient prêts à prévenir le suicide. Et quand on leur dit, mais au fond, votre demande de mort en fin de vie, face à la souffrance ou à la désespérance, ne serait-ce pas un peu du même ordre ? Ah bon ? Vous croyez ? Ben oui, je crois. Bien sûr que je crois. Bien sûr que je crois que la demande de mort et la pulsion suicidaire ont des similitudes très profondes, que c'est le même élan. C'est assez paradoxal, une société qui dit ben, on veut lutter contre le suicide des vieux, le suicide des jeunes, etc. C'est une catastrophe. Et en même temps, on veut pousser les gens vers l'euthanasie. Alors donc, la loi, la fin de vie, c'est un risque majeur à court terme. Pourquoi ? Parce que vous avez bien vu qu'on ouvre la révision des lois bioéthiques. On a annoncé il y a quelques jours les différents chantiers qui seront ouverts dans les régions. Donc c'est les centres régionaux d'éthique qui vont animer ces débats, cette phase de débat avec la société civile. Dans le Nord, je ne sais plus quels sont les thèmes retenus, mais a priori il n'y a pas la fin de vie et l'euthanasie ou le suicide qui ne sont pas dans le scope de ce qui va être abordé sur l'île. Par contre, dans d'autres régions, il y a la légalisation de l'assistance au suicide et puis aussi les politiques d'accompagnement pour les malades en fin de vie. Politique d'accompagnement pour les malades en fin de vie, ce qui pourrait être très positif, bien sûr, en exigeant qu'on fasse plus et mieux, mais qui peut aussi dériver complètement vers une revendication euthanasique. Donc, débat annoncé, loi qui va être proposée à la suite de ces débats, écrite par le gouvernement, discuter à l'Assemblée nationale à l'automne prochain et voter en fin de l'hiver ou printemps 2019. Loi qui revoit toute la bioéthique, donc il y a tous les sujets, hein. Il y a l'embryon, la recherche, le machin, etc., les transplantations d'organes, la PMA, la GPA, enfin la totale, y passe, mais aussi la question de la fin de vie, qui a bien envie de s'inviter. Un signe très intéressant quand on observe la vie politique, c'est que 3 propositions de loi ont été déposées par 3 députés. Donc, une proposition de loi, c'est des textes proposés par des députés et non pas par le gouvernement, qui ont peu de chances d'être votés, qui peuvent être déposées dans des niches parlementaires, mais qui ont comme grand intérêt pour les députés qui écrivent le texte de chercher les signataires. Et ça permet de se compter à l'Assemblée. Les députés, comme ça, ils voient quelle est la marge de soutien à leur composition. Et donc, il y a eu un texte socialiste, un texte proposé par un sans étiquette plus proche de La République En Marche, et puis un texte proposé par une dame qui s'appelle Fiat, de son nom de famille, de la France Insoumise. Alors celle-là, elle y va fort. Et donc, elle propose le suicide assisté et l'euthanasie, les deux. Donc ces trois textes ont été proposés à l'Assemblée nationale. Il est possible que ce texte de Madame Fiat soit discuté à l'Assemblée prochainement dans une niche parlementaire ouverte en discussion pour le groupe France Insoumise. Donc il y a là un risque législatif qui est faible à court terme. Le texte va être refusé lorsqu'il va être proposé à l'Assemblée nationale, peut-être en février-mars, on ne sait pas trop. Mais ça va permettre de voir le nombre de personnes prêtes à soutenir, le nombre de personnes prêtes à co-signer, de voir qui dépose, qui soutient en commission des affaires sociales, etc. Donc ça permet de préparer le terrain pour l'avancée des textes. Honnêtement, on peut être assez inquiet quand même. Assez inquiet sur l'évolution législative dans les prochains mois. Donc je pense qu'il y a grande urgence pour ceux que ces thèmes intéressent à se mobiliser sur ces questions. Pour intervenir dans les débats, vous ne pouvez pas le faire tout seul, il faut vous rapprocher de gens dont « ouvrez les guillemets, c'est le métier », que de tenter de faire peser des convictions sur la vie politique. On sait le métier des lobbyistes, etc. Mais sur nos questions, c'est le métier d'Alliance Vita, de la Fondation Le Jeune, enfin de quelques-uns qui travaillent ces questions-là et qui développent des stratégies d'influence sur ce genre de thème. Donc si vous êtes sensible à ces sujets, je vous conseille de vous rapprocher des équipes locales d'Alliance Vita ou autres qui pourront vous aider à investir votre énergie avec finesse et pertinence, parce que on peut passer du temps, mais autant que ce soit efficace. On n'a tous pas que ça à faire non plus, et donc c'est important de s'asseoir sur une stratégie qui soit bien réfléchie. Voilà, donc en tout cas, il y a grande urgence au fond, parce que on voit à chaque fois les lois, c'est des dégradations successives, hein. Chaque fois qu'on légifère sur la bioéthique, à chaque fois on fait tomber une digue, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Il y en a beaucoup des digues. Bah oui, il y en a beaucoup. Bon, le fait est qu'on va un jour arriver à une libéralisation absolument totale et radicale de tout. Mais on est encore loin, il y a encore pas mal de digues qui nous protègent. Et donc, c'est préoccupant, parce que le gouvernement actuel a l'air plutôt bizarrement intentionné. Le fait de nommer Madame Schiappa, je pense que vous suivez les paroles de cette folle dingue dans les médias, et vous appréciez à quel point c'est dangereux, quoi, d'avoir des gens avec ce, voilà, qui sont prêts à faire un peu n'importe quoi. Voilà, que faire par ailleurs ? Ben, y a d'une part la question de la loi, puis après il y a la question qu'est-ce qu'on fait en pratique, quoi, face aux questions de la fin de vie. Comment est-ce qu'on réconcilie pour les soignants le médical et le relationnel ? Quel drame quand on croit que le soignant n'a pas de proximité avec la personne souffrante. Ou quel drame lorsqu'il n'est plus capable de l'exprimer. Ou lorsqu'il y a une rupture qui est trop profonde et que voilà, ça ne passe plus. Comment faire pour que cette mission essentielle du soignant d'apporter de la consolation, d'apporter du réconfort, d'apporter de la guérison, peut-être par des paroles qui libèrent, oui. Comment faire si il n'est plus là pour le faire. Donc réconcilier médical et relationnel. Il ne faut pas que la médecine s'enferme dans une entreprise maternante, mais qu'elle travaille à renforcer le lien d'humanité entre le patient, son entourage familial, social, etc. Et on peut tous travailler à ça. On peut tous travailler à ça, qu'on soit soignant ou pas. Vous ne construirez pas une saine relation à la fin de vie si vous cultivez la méfiance par rapport aux soignants. Ça n'est pas vrai. Je ne crois pas que ce soit un juste chemin. Vous ne pouvez pas bâtir une relation, etc., si vous cultivez la méfiance. On est obligé, il n'y a pas d'autre chemin qu'un chemin de confiance. Et donc, comment faire pour que voilà, ça soit jouable et qu'on puisse le suivre. Après ça, il y a la question de la place laissée à la fragilité, à la dépendance, quoi. Est-ce qu'au fond, la fraternité, notre fronton républicain, est un vain mot ou pas? Comment est-ce qu'on veut l'entendre, cette fraternité? Est-ce que c'est la fraternité des frères de la fraternelle, enfin des francs-macs, ou est-ce que c'est une fraternité chrétienne, quoi? Alors, c'est quoi la fraternité qui est cachée derrière ce mot? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais si la fraternité, c'est ce que sans doute un certain nombre de ceux qui ont proposé ces valeurs voulaient mettre, c'est-à-dire vraiment être comme frère, à ce moment-là, c'est hyper exigeant. Et on est attendu au tournant autour de ces enjeux d'accompagnement, de fin de vie, de souffrance, etc. Je termine en vous livrant dans l'encyclique de Jean-Paul II, Evangelium Vitae, est un texte absolument majeur sur toutes les questions de bioéthique. S'il y a un texte à lire, c'est ça, Evangelium Vitae. Bon, c'est un peu long parfois, mais c'est vraiment intéressant. Et vous le lisez 10 fois, vous découvrez 10 fois les trucs nouveaux que vous n'avez pas vus à la première lecture. Et donc, le pape Jean-Paul II, saint Jean-Paul II, laisse un seul message pédagogique, un seul. Dans tout ce texte qui fait... c'est des petits formats, mais il y a une 60aine de pages. Parents, apprenez à vos enfants le véritable sens de la souffrance et de la mort. Parents, apprenez à vos enfants le véritable sens de la souffrance et de la mort. On ne construira pas une relation équilibrée à la fin de vie. On ne répondra pas à la question de l'euthanasie. On ne traitera pas l'enjeu du suicide si on ne construit pas une juste relation à la souffrance et à la mort. Alors comment ils vont faire les parents pour faire ça? Eh bien, c'est pas difficile. On va visiter les malades. On va embrasser sa grand-mère mourante. On va lui prendre la main. On va passer du temps avec elle. Lorsque quelqu'un est décédé, on va voir le corps. On va toucher le corps. On développe chez les plus jeunes et dès tout petits une vraie relation ajustée à la souffrance et à la mort. On va visiter sa personne, sa voisine ou un ami qui est en fin de vie, qui est gravement souffrant, et on va passer du temps. Et on va voir combien cette présence, comme telle, peut, malgré la souffrance, faire sortir des sourires et faire sortir du bonheur. On va expérimenter ça. Mais si on ne le fait pas étant enfant, si on ne le fait pas étant adolescent, alors on sera vraiment blessé après. On aura beaucoup de mal à trouver un chemin ajusté. Donc, apprenez à vos enfants le véritable sens de la souffrance et de la mort. C'est sans doute transposable plus loin que les enfants, mais voilà, pour nous tous. En tout cas, il y a là vraiment... il le donne comme clé pour l'ensemble des questions de bioéthique. Je pense qu'on pourrait discuter de la souffrance de la stérilité, c'est-à-dire la souffrance de je ne sais pas quoi. Apprenez à vos enfants le véritable sens de la souffrance et de la mort. Soyez proches des souffrants. Montrez-leur, apprenez-leur, ce n'est pas des cours, ce n'est pas des discours, c'est rendre visite, c'est tenir la main, c'est s'asseoir à côté, c'est jouer auprès de la personne souffrante, c'est passer du temps. Combien de fois des gens, quand des malades me disent « mais est-ce qu'on peut amener les enfants ? C'est tellement dramatique la situation », je dis « mais surtout, amenez-les ». Notre regard d'adulte n'a aucun rapport avec le regard des enfants. Et pour eux, vous les libérez en leur permettant de voir, en leur permettant d'être proches, et vous verrez, vous serez surpris. Vous serez surpris par la qualité de leur présence aux personnes les plus fragiles. Vous serez surpris par leur facilité à aller à la rencontre. Mais donnez-leur cette chance. Parce que sinon, s'ils n'ont jamais eu cette chance, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Vous ne pouvez pas construire une société juste et qui prenne soin des plus fragiles si on n'apprend pas ça et si on ne le travaille pas. C'est quelque chose qui se travaille. Un exemple. On a eu il y a bien longtemps, il y a des gens ici dans la salle qui s'en souviennent, des amis qui étaient gynéco. Et lui, il prescrivait la pilule à toutes les dames catho BCBG de Marc-en-Barœul, vous voyez, gens très sympas. Bon. Et puis, elle s'est convertie, et puis il s'est converti. Et 5 ans plus tard, tous les deux, il avait arrêté son métier de gynécologue. Il avait des clochards à Paris, en bleu parisien, dans une association. Il leur donnait des douches, des bains, et il les lavait. Et au fond, je me disais, moi, c'est quelque chose, je suis incapable de faire ça. Parce que j'ai trop de... Ça me dégoûte. Enfin, j'ai une espèce de barrière infranchissable. Par contre, il y a des choses que j'ai apprises dans mon métier, il y a des contacts que je suis capable d'avoir, il y a des malades, des situations de souffrance que certains verraient comme dramatiques, que je suis capable d'affronter, de toucher, etc. Je suis capable d'aller vraiment à proximité. Donc on a besoin d'apprendre. Ça s'apprend. Cette proximité, elle s'apprend. C'est pas inné. Bon, j'ai besoin qu'on me prenne la main. J'ai besoin qu'on m'emmène. J'ai besoin qu'on m'emmène dans la chambre de soins palliatifs, qu'on m'emmène voir cette personne qui est vraiment dans les derniers jours, qu'on m'emmène lui dire bonjour, discuter avec elle du temps qu'il fait, de je sais pas quoi, d'un événement d'hier ou de demain. Voilà. J'ai besoin qu'on m'apprenne ça. C'est tellement important. Donc, voilà. Si on cherche des réponses à notre hauteur, voyez, des fois on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Changer la loi, c'est très compliqué. Ben, on peut sûrement travailler à changer la loi, on peut aussi sûrement travailler à nous changer nous-mêmes en faisant ces quelques pas qui sont possibles pour aller vers plus de, voilà, plus de proximité et qui vont faire tomber un certain nombre de barrières intérieures que nous avons et qui vont faire que nous allons découvrir avec étonnement combien parfois une simple présence amicale peut être plus précieuse que tous les baratins, etc. Que le fait de rendre visite, s'asseoir à côté d'un lit, il n'y a pas plus bienfaisant que ça. Bon, je vais m'arrêter là et puis laisser la place à vos questions.
Merci beaucoup. Alors, je vais juste remercier avant les questions, parce que s'il y en a qui ont une babysitter à ramener ou pas, je ne sais pas, s'il y a des obligations, parce que c'est le début de la semaine, eh bien, on ne sera pas vexé que vous partiez. Donc, je me permets de vous remercier. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Je vous remercie surtout de nous redonner cette confiance aussi que nous devons envers toute la médecine, de cette belle vocation. Il y a dans la salle des kinés, des sages-femmes, des médecins. Il y a des aides-soignants, bien parfois c'est un travail bien ingrat qui n'est pas forcément rétribué à sa juste valeur, mais je vous remercie pour ce beau message d'espérance et pour cette belle vocation de tous ceux qui nous aident pour ce beau trésor que le bon Dieu nous a donné, qu'est la vie. Alors pour les questions, je vous demande une chose, c'est que la question n'est pas une réponse, ce n'est pas une conférence, mais c'est une véritable question, donc elle doit être brève et assez rapide, et surtout aussi quelque chose qui n'est pas forcément trop personnel, ce n'est pas un témoignage de votre vie, ça vous pouvez le faire en privé bien sûr, mais quelque chose en public qui peut intéresser tout le monde. Voilà, donc je vous mets un peu la pression, mais donc du coup je formule ma première question, j'en ai plein si vous n'en avez pas. Mais je formule ma première question pour laisser le temps de reformuler peut-être la vôtre si c'était important. Quant à la question de l'alimentation, moi, ce que j'avais trouvé difficile de voir, c'est que quand on voit un malade en soins palliatifs, quand on vous dit que c'est... on vous parle d'alimentation, vous voyez une espèce de poche où on vous dit bah, ça c'est la morphine, ça c'est l'alimentation, ça c'est l'hydratation. Vous ne voyez pas la différence de couleur. Pour nous, l'alimentation, c'est, on pense à des frites, on pense à un steak. Et quand vous voyez la poche comme ça, vous dites ça c'est de l'alimentation, enfin, j'y crois pas. Enfin, et en plus, dans cette alimentation, le médecin vous dit ben, là j'en ai mis telle dose de médicaments, etc. Donc pour moi, c'est difficile de penser, de vous dire ben, ça c'est vraiment de l'alimentation. Alors c'est un soin, vous dites, les soins simples que tout le monde devrait avoir, les soins de base, mais moi j'ai du mal à m'imaginer que c'est vraiment un soin de base, parce que moi si tu me donnes ça en soin de base, je meurs peut-être plus rapidement que cette personne de dépression.
C'est vrai que ça peut être troublant parfois. Après, en plus ça a un goût, c'est dégueulasse. Hein. Pour les sondes d'alimentation qu'on met dans des gastrostomies, donc qui sont des trucs un peu marronnasses comme ça, quand les patients ont des refus, ils disent que ça a goût de merde quand même. Hein. Donc c'est vraiment dégueulasse, hein. Là, je vous assure. Hein. Ouais, en même temps, bon, voilà. Enfin, aussi, c'est des débats qui ont eu lieu autour de situations du genre de celle de Vincent Lambert, de gens alimentés par des gastrostomies. Et donc, vous savez, on met une sonde directement dans l'estomac quand les gens ne peuvent pas déglutir, et puis on met de l'alimentation. Et les médecins disent, les nutritionnistes disent, bah, il faut mettre absolument une poche comme ci, comme ça, on vous fignole votre poche, elle est fabriquée par l'industrie pharmaceutique. Bon, certes, c'est très très bien. Si vous le ramenez à la maison, que vous mettez votre dîner, vous passez la moulinette et que vous mettez dans la sonde, ça marche aussi, quoi, quand même. Alors après, peut-être qu'en termes de qualité nutritionnelle, ce sera un peu moins optimisé en vitamines et en machin que la géniale poche de l'industrie pharmaceutique. Mais peut-être quand même que la personne, elle pourrait bien vivre bien longtemps avec le menu passé à la moulinette dans le tuyau. Donc, il y a aussi une place pour discuter. Il devrait y avoir une place pour discuter là-dessus. Et on peut vivre pas mal. Hein. Moi, j'ai un oncle qui est mort d'une maladie d'Alzheimer et ma tante a pris soin de lui. En plus, il était devenu vraiment agressif et méchant. Donc, c'était vraiment très 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 pénible, et elle a pris soin de lui avec un dévouement, ça restera marqué toute ma vie, hein, cette délicatesse, et je pense que pendant 3 mois, il s'est nourri de boudoir et de champagne. Exclusivement. Il aimait beaucoup le champagne, et tout. Et voilà, et donc, elle avait convenu avec les médecins soins palliatifs de s'occuper de lui remarquablement, parce qu'il voulait foutre la paix et que ça lui fasse plaisir. Il s'est nourri de boudoir et de champagne. On peut vivre 3 mois avec des boudoirs et du champagne. Donc, comme quoi, là aussi, les grands dogmes. Alors après, le nutritionniste de l'hôpital, il s'arrache les cheveux, là, il y a une diététicienne avec des primes et tout. On dit, oh là là, mais ça va pas du tout, les protéines, les machins, il va faire des escales, il va s'infecter tout. Ouais, enfin bon, il a vécu 3 mois avec des boudoirs et du champagne, il était bien content. Donc effectivement, il y a sans doute la place pour prendre une forme de distance. Là aussi, ça va dépendre de la demande des gens. Il y a des gens qui vont se satisfaire de ça, qui ne vont pas se sentir blessés, ou etc. Il y en a d'autres qui vont dire, moi, votre poche, enfin, c'est pas possible. Foutez-moi la paix, trouvez-moi autre chose. Et donc, il ne faut pas hésiter à titiller gentiment, à dire, bah, si on faisait autrement, si on essayait autrement. Et parfois, ça marche.
Merci beaucoup. Vous avez d'autres questions ?
Oui.
Je me lève. Et vous disiez que les Français étaient majoritairement favorables, d'après les sondages, à l'euthanasie. Est-ce qu'il y a beaucoup de patients qui demandent cet acte ?
Alors, c'est rare. Il y en a quelques-uns, mais c'est rare. Mais on a quand même l'impression que c'est plutôt en augmentation. Et je crains une forte et rapide augmentation. Je crains vraiment. Qu'à partir du moment où les choses rentrent dans les mœurs, voilà. Vous avez vu, enfin, la tentation de la sédation... Il y a aujourd'hui des gens qui demandent une sédation terminale. Et ça devient vraiment quelque chose de... Voilà. Eh bien, vous en aurez vu mourir 5 ou 10 comme ça, les gens demanderont la piqûre létale. C'est ce que dit la DMD, mais ils ont raison. Sur le fond, leur stratégie, elle est pertinente. Et je suis inquiet sur l'avenir. Après, comment ça va se passer, etc. Et puis là, on peut toujours avoir des rebondissements, des retours de bâton dans ce genre d'affaires considérables en bioéthique. Il y a eu plein d'exemples. Si on a... Je pourrais vous en citer des exemples marrants de retournement de situation, mais en tout cas, voilà, à vue humaine, comme ça, si ça continue à cette vitesse-là, assez vite, on aura quand même une demande assez fréquente. C'est ce qui se passe en Belgique, hein, on voit bien. Ça devient une norme. Nouvelle façon de bien mourir. La nouvelle mode pour bien mourir aujourd'hui, c'est la sédation. Bah, après-demain, ce sera la piqûre létale.
Merci beaucoup.
Alors ma question reprend un petit peu votre réponse et la question précédente, et elle est volontairement provocatrice. Est-ce que vous ne pensez pas que le combat est perdu d'avance quand on voit que certains Français sont prêts à justement partir en Belgique et que finalement le combat législatif, de toute façon, il est presque déjà acté, quoi.
Ouais. Je suis absolument d'accord. J'étais absolument d'accord avec ça en 2003, après la mort de Vincent Imbert. Tout le monde était convaincu que c'était plié, terminé, foutu, etc. Et puis... On est quelques années plus tard, et on n'a pas la loi qu'on aurait pu se prendre dans la tronche en 2003. Et donc, comment ça a été possible ? Ça a été possible parce que, alors que la société avait basculé, alors que les médias, etc., alors que tout était favorable à l'euthanasie, des gens, chacun dans sa situation, des philosophes, des politiques, des médecins, des sociologues, des machins, des religieux, etc., ont dit, chacun à leur place, eh bien, je crois qu'on se trompe de chemin. Et l'on dit, et répété, et l'on dit dans les bonnes instances, et au final, les députés ont accepté un texte qui était le sens contraire de ce pourquoi ils étaient partis, quand même. Donc, à vue humaine, c'est perdu d'avance, et puis en fait, on sait jamais, quoi. Il peut se passer des trucs comme ça, et des retournements incroyables. Quoi. Donc, je pense que ça vaut vachement la peine d'essayer de limiter la casse, de faire ce qu'on peut. Là aussi, du jour où la logique euthanasique sera en place, si vous voulez... c'est quand même une pression sociale extrêmement forte qui s'exercera sur nous tous. Hein. Et le malade dans le service de médecine, là, si tous ceux qui sont dans le même état ont déjà demandé depuis longtemps à mourir pour libérer la place et ne pas gêner leurs proches, vous avez quand même une sacrée pression sur les épaules pour vous aussi demander la petite piqûre qui fait qu'on dégage le plancher et qu'on n'est pas une gêne pour les autres. Et donc la pression sociale se met très vite en place, de façon très violente. Et donc chaque année de gagner, c'est des milliers de gens à qui on évite ça, quoi. Enfin, donc ça vaut super la peine de se battre. Ouais. Voilà. Je suis d'un... Après, ça nous échappe. Mais bon, au moins mettons nos forces dans l'engagement. Après, on verra bien. Hein. Voilà. Oui, là-bas, il y a une question après.
Je posais la question.
Plusieurs questions dans le fond.
Quand on arrête l'hydratation, la personne doit souffrir atrocement. Je ne comprends pas comment on peut arrêter l'hydratation.
Alors, l'arrêt d'hydratation, dans la cas de sédation, vous êtes endormi. Donc, vous ne vous plaignez de rien. Voilà. Bon, ça, c'est pratique. Ouais. Ensuite, l'arrêt d'hydratation peut, dans certains cas, être une bonne chose. Il y a des situations de fin de vie où la personne est trop hydratée, a des problèmes plutôt d'œdème, d'œdème pulmonaire, de difficultés respiratoires liées au fait qu'elle est trop hydratée. Et donc, réduire ses apports hydriques, voire les arrêter pendant quelques temps, peut être un acte médical qui rend service. Donc là aussi, on ne peut pas être totalement binaire. Vous voyez, c'est toujours plus compliqué dès qu'on creuse un peu qu'on imaginerait à première vue. Mais en tout cas, oui, l'hydratation, c'est très pénible de ne pas boire, c'est atroce, quoi. C'est une des morts les plus désagréables qui puissent être imaginées. Mais si vous êtes tout à fait bien endormi, anesthésié, ça se passe très très bien. Hein. C'est très pénible pour les autres, mais pour vous, voilà. Et c'est assez rapide. Hein. Sédation, arrêt d'alimentation, hydratation, je pense que l'espérance de vie doit être de 3-4 jours, quoi. C'est de cet ordre-là. Ça va assez vite. 5-6 pour un bien costaud, quoi. Mais... Monsieur.
Oui, monsieur, moi j'avais une question, c'était, quand vous avez effleuré le sujet en tout début de conférence, c'est lié au don d'organes. Oui. Aujourd'hui, la loi nous permet, par défaut, on devient donneur d'organes, et aujourd'hui, on doit préciser si on ne veut pas être prélevé d'organes. Alors, vous avez parlé des condamnés à mort, où c'était assez facile de se jeter sur le cadavre encore chaud pour récupérer ce qui était encore exploitable. Aujourd'hui, on récupère des motards qui ont encore le cœur qui bat, donc ça touche à la définition de la mort, et on les prélève. Alors, ça retouche un petit peu la notion de la limite, mais doit-on accepter, ne doit-on pas accepter, dans quelle mesure ça pourrait paraître moral, dans quelle mesure on n'a pas la réponse, dans quelle mesure c'est moral?
Eh bien... Je pense que le principe même de la transplantation d'organes est plutôt un principe à soutenir. C'est-à-dire que moi, je suis favorable à la greffe de rein, à la transplantation cardiaque ou hépatique. Je pense que c'est des bonnes choses. Après, la question, c'est effectivement la bonne définition des critères de la mort. C'est de ne pas, pour une volonté utilitariste, il y a tellement... Vous vous rendez compte, il y a encore des gens qui meurent en attente d'une greffe de rein, etc. C'est quand même inadmissible. Il faut qu'on ait plus de donneurs. Parce que dans cette logique-là, on aboutit, comme on l'a vu, à faire bouger les limites et à des dérapages inacceptables, à des situations où on va prélever des organes sur des gens qui ne sont pas tout à fait morts. Et en fait, quand on n'est pas tout à fait, c'est qu'on n'est pas. Donc, c'est très gênant. Je ne suis pas opposé, moi je n'exprimerai pas de refus pour la transplantation, mais j'espère que ceux qui me prélèveront peut-être mes organes un jour sont des médecins doués de bon sens, bien formés, et qui écoutent leur conscience. Quoi. Voilà. C'est la seule vraie limite que je vois. Hein. C'est la seule vraie limite. Hein. Des gens sages et prudents. Alors après, est-ce que la probabilité est élevée d'en croiser sur ma route? Plutôt oui. Mais je ne peux pas vous garantir qu'effectivement, ça soit une absolue sécurité. Voilà. Donc, il y a une place pour l'excès, probablement. Ouais. Difficile à dire. Il y a des pays qui prélèvent beaucoup plus que nous encore. Hein. Mais bon, on sent bien qu'on est très tenté d'aller plus loin. Très tenté d'aller plus loin. En France, on a encore des protections parce que, par exemple, le médecin, l'équipe qui prélève n'est pas celle qui transplante. Il y a des pays où il n'y a pas cette précaution. Ensuite, il n'y a pas d'enjeu économique. Enfin oui, il y a plein déjà de barrières. Vous allez me dire, elles sont ce qu'elles sont, elles sont fragiles par rapport à la question des critères de la mort. J'entends bien et je suis d'accord. Mais il y a quand même un certain nombre de règles qui déjà évitent qu'il y ait trop de conflits d'intérêts. Parce que vous voyez, si en plus c'est le mec qui va vous sauver la vie en vous greffant le rein, qui va aller piquer le rein sur un autre, ça peut lui donner des pulsions. Donc c'est bien qu'il y ait des frontières et des barrières... qui ont été mises par le législateur et qui sont assez saines. Donc il y a quand même pas mal de protections encore, qui sont des freins pour certains. Certains disent « Ouais, mais c'est un frein, hein. Ça irait beaucoup mieux si on pouvait faire autrement. » Ah ouais, mais on pense que c'est nécessaire qu'il y ait des freins qui mettent justement cette distance entre celui qui va recevoir et celui qui donne, l'anonymat, etc. C'est des éléments qui, je pense, ont leur valeur, en tout cas, pour garantir qu'il n'y ait pas trop de délire autour de tout ça. Mais il y a un vrai risque, hein, et c'est la pulsion, c'est la tentation utilitariste, au fond, parce que c'est possible, et parce que ça rendrait service, et ça soulagerait peut-être des gens souffrants, on serait prêt à tout accepter. C'est la même logique qui va conduire à accepter la GPA pour des couples même sexe qui veulent un enfant, c'est la même logique qui va accepter toutes les dérives bioéthiques, au fond, la plupart, je pense presque toutes, j'ai pas réfléchi sous cet angle-là, mais sont liées à cette idée, il y a des souffrances, on voudrait les soulager, donc on accepte des petites ou des grosses transgressions pour soulager la souffrance. Hein. Tout se résume à ça. Donc autour de la greffe, c'est ça aussi.
J'ai une question, et ce sera la dernière, sauf... on m'a dit au téléphone, donc du coup, quand je devais vous présenter, que vous avez réussi, pour rebondir sur l'efficacité de ce que nous pouvons faire, il paraît que vous avez réussi à faire une jurisprudence sur un enfant qui aurait été peut-être manipulé par ses parents, qui aurait refusé qui serait revenu sur sur sa naissance et qui aurait dû être avorté normalement. Et donc, on ne peut pas.
Je vais vous réexpliquer l'histoire. Mais...
D'où les questions brèves.
Ça se passe en 2000, où Nicolas Perruche naît handicapé et sa famille porte plainte du préjudice qu'elle subit d'avoir un enfant handicapé. Et sa famille porte plainte au nom de l'enfant, du préjudice que subirait l'enfant d'être né handicapé. Donc du préjudice qu'il aurait subi de ne pas avoir été avorté. Cette jurisprudence, enfin ce jugement gravissime, puisque ce jugement gravissime induisait au fond l'idée que la naissance de la personne souffrant de handicap était toujours un préjudice qui demandait réparation, et réparation pour l'enfant, qu'il aurait préféré, il aurait été préférable qu'il ne vive pas. Donc ça a suscité un grand émoi, etc., beaucoup de réactions, et il a été possible à l'époque, avec l'aide de pas mal de personnes et tout, enfin je vous passe toute l'usine à gaz derrière, efficace, qui a été mise en place, assez complexe, il a été possible d'aboutir à une loi qui a contrebalancé ce qui s'appelait à l'époque la jurisprudence Perruche. Et d'ailleurs, tout ça s'est terminé par un texte voté à l'Assemblée et dans un texte différent au Sénat, et donc avec une commission mixte paritaire. Et donc, vous savez, quand deux textes sont votés différemment et qu'il n'y a pas d'accord entre le Sénat et l'Assemblée, dans certains cas, ça dépend des parcours des textes, etc., mais dans ce contexte-là, du parcours du texte législatif, c'est en commission mixte paritaire que, finalement, il y a un texte définitif qui est adopté. Et cette commission mixte paritaire siège une sénatrice communiste du Nord qui s'appelle Michèle Demessine, qui est toujours vivante et qui est toujours sénatrice. Et d'ailleurs, elle a une attachée parlementaire particulièrement toxique qui a récemment fait parler d'elle. Mais quoi qu'il en soit, sur ce dossier, Michèle Demessine est elle-même mère d'un enfant handicapé. Et je suis allé la voir quelques jours avant qu'elle aille en commission mixte paritaire. Et d'ailleurs, c'est un clin d'œil amusant, mais ce jour-là, quand je suis allé, j'avais un costume noir, une chemise noire, et j'étais habillé exactement comme son assistant parlementaire. C'est-à-dire que j'avais pris des codes, les codes vestimentaires, qui n'étaient pas ceux de ma famille... ou de mon métier, mais qui étaient ceux de la culture de la personne que j'allais rencontrer. Et lors de cet entretien, on a eu une longue discussion, et elle a voté contre l'avis du Parti communiste, et elle a fait basculer la jurisprudence Perruche dans le bon sens. Et donc après 2 ans de bazar acharné, je pense que là aussi, moi, je garde confiance dans des rencontres personnelles. C'est-à-dire que, après, on peut dire, voilà, il y a des trucs qui nous écrasent, il y a des lois, des machins, des tas de trucs, des gens, des élus, des présidents de la République, tout ce que vous voulez. Enfin bon, plein de vous dites c'est hostile, on ne sait pas comment faire, etc. Ben, gardez confiance dans la capacité que vous avez à aller rencontrer avec sincérité une personne en situation de décision. Allez voir vos députés, allez voir vos sénateurs, allez leur dire ce qui est important pour vous. Dites, les engueulez pas, ça ne sert à rien de toute façon. Donc, les engueulez pas, c'est pas en les engueulant que vous allez être écoutés, mais allez les voir pour leur parler d'un sujet qui vous tient à cœur et leur dire pourquoi c'est important pour vous. Vous pouvez vraiment changer des cœurs et faire bouger des choses. Donc j'ai vraiment confiance dans le fait qu'on peut... parfois, il y a des clins d'œil, quoi, de la Providence, hein, c'est comme ça. Donc je pourrais vous raconter plein de choses sur cette histoire, mais bon, il y a plein de trucs sur Internet. Et donc ça s'appelait le collectif contre l'handiphobie à l'époque, qui existe toujours d'ailleurs.
Bon ben, merci encore. Et nous avons eu la chance d'avoir eu 5 minutes d'entretien juste avant la conférence pour relancer sur une deuxième conférence qui se fera le lundi saint. Alors j'ai oublié la date, donc juste avant Pâques. La semaine avant Pâques, on fera une deuxième conférence qui continuera un peu ce thème, qui reviendra sur une des questions qui étaient posées sur le don d'organes, sur la marchandisation du corps. Je crois que c'est ce que nous avions fixé.
On disait que c'était bien comme thème, la marchandisation du corps. Mais ça me va bien, je travaille un cours pour l'ICES, l'Institut catholique de la Roche-sur-Yon, là, et la fac catho, là. Et donc, comme je travaille sur ce sujet-là actuellement, avec plaisir, on pourra réfléchir ensemble sur tous les enjeux liés à la marchandisation du corps. Il y a les enjeux vraiment importants. Ça permet de revoir toute la bioéthique de façon transversale. Je pense que c'est une accroche intéressante.
Donc voilà, merci encore. J'espère que vous serez tous présents dans 2-3 mois pour montrer que déjà vous avez bien apprécié cette première conférence. Je rappelais que cette conférence, et la vérité, c'est gratis, donc il n'y a pas de prix, donc c'est vraiment gratuit. Vous êtes tous invités, si vous le voulez, à prendre une consommation au bar pour la suite, parce que nous remercions bien Monsieur Noaillac qui nous ouvre son restaurant qui normalement est fermé, donc c'est une manière de le remercier pour son accueil. Donc, si vous n'aimez pas la bière ou le Coca Zéro, eh bien vous avez toujours la possibilité de revenir en semaine ou le soir, eh bien quand ce restaurant est ouvert. C'est aussi une bonne manière de remercier notre réseau. Donc je vous remercie, nous allons tourner encore une fois vers Notre-Dame pour la remercier. Je vous salue Marie,
comblée de grâce, le Seigneur est avec vous.